too good for my own good. Yeah, yeah, I'll be there. I'll be there in a minute, even though it took an hour for you to even answer. I'm losing all my power, but who's keeping score?
Excusez-moi, je mixe ce morceau, mais n'importe comment. Bonjour! Étrange ce bruit de gorge. Et bienvenue dans une nouvelle semaine de Matine Étienne. Voilà. J'allais dire, vous sentez ce parfum de rentrée? Pas du tout. C'est le 18 août. On va pas s'enquiquiner avec ça. Voilà. Dans quelques jours, vont pulluler dans vos journaux des articles sur la rentrée scolaire, la rentrée politique, la rentrée. Des entreprises, la rentrée universitaire. Ce matin, on est pour l'instant encore épargné. 18 août, voilà, respire, soufflons, profitons de ces moments où les esprits sont encore tournés vers l'été, même si certains sont peut-être déjà rentrés. Oui, les marronniers, c'est ce qu'on appelle. Oui, Camille, tu as raison, c'est ce qu'on, dans la presse, c'est ce qu'on appelle les marronniers. Tiens, voilà, le comptable, je viens de reprendre le boulot, merci d'alléger ma peine, nous dit le comptable dans le chat. Voilà. Le comptable, on se demande bien d'ailleurs qu'est-ce qu'il pourrait faire comme métier. Dans quoi pourrais-tu être le comptable? Le comptable peut-être, peut-être un quelque chose en rapport avec la nature ou avec la science, voilà, ou le sport. Le comptable, pas facile, peut-être boulanger, peut-être, oui, Dagnir. Wolfking, merci pour le 8e mois. Babylonia, merci pour le 22e mois. Vous êtes incroyable. Et on remercie, même si c'est un sub qui date d'hier soir, à Luc le Trouduc. Parce que c'est un pseudo qui mérite d'être salué. Baisse les charges, le comptable, nous dit Spectreoff. Non, mais c'est pas le comptable qui baisse les charges. Chouchou, c'est le législateur, c'est éventuellement le gouvernement. Donc non. Non, qu'est-ce que non. Stop les bêtises, stop. Bon, vous allez bien? MDR, le pseudo. Dit Bubo Scandiacus. Bubo Scandiacus, Luc le Trouduc, il y a un. Wolfking, je t'ai remercié, je crois. Merci pour le 8e, moi je sais plus. Je retourne au travail dans 2 jours, donc je fais déjà des petites crises d'angoisse, me dit petite Pierre. Non, t'inquiète, on va. Donnez-moi cette angoisse, je la prends. Merci Rimek pour le 35e mois, merci pour ton prime, tu régales. Donnez-moi cette anxiété de la rentrée, je la prends, je la mange, moi. Voilà, Amigra, perso, j'ai repris la semaine dernière, donc déjà bien revenu aux affaires. Salut Anonyme 31, bon lundi, bonne reprise à celles et ceux qui reprennent le travail aujourd'hui. Oui. Oui, Alexandra, on va lancer sur TikTok, tu as raison. J'espère que tu vas bien. Pas de congé, donc pas de déprime. Bah oui, Claire et Dodi. Salut Claire et Dodi. Claire et Dodi avec sa petite cafetière rouge en guise de badge. 48 mois d'abonnement. Il faudra que je me. Je ne sais pas si j'ai pensé. Je crois que je n'ai pas pensé de badge pour les 50 mois. Il faut que je me penche sur le prochain badge. Vous êtes au max. Merci Jeubi pour le 4e mois. Merci. Oh, il y a Jeubi qui vient de prendre un 4e mois. Et il y a JB 8931 qui vient de prendre un 4e mois. JB Jeubi. Parlez-vous, mes amis? Vous êtes fait l'un pour l'autre, hein? Ouais, je sais, Nicodème, ouais. Salut Nico, ça va? Je vais lancer sur TikTok. Ouais. Mais bon, je ne sais plus, je ne sais pas. Nicodème, pas. Oui, c'est un dilemme. Il manque plus que Joba. Ah oui? Ah oui, JB, Jeubi. Ah oui, et Joba, oui. T'as raison. Bubos Candiatus, c'est le vrai nom de l'Arfand des Neiges, rien à voir avec un autre pseudo. C'est un oiseau, c'est une chouette, ça, non? Non, c'est pas ça. J'ai une bêtise. Merci Arthur Régio pour le 27e mois. Bon, les amis, est-ce que on lance le double stream? Vous savez que depuis 5 ans, bientôt, je stream sur Twitch. Mais depuis quelques temps, on s'est dit que cette revue de presse, on pouvait la partager aussi avec nos amis de TikTok. Ça fait double chat, on aime bien ça ici. On aime bien lire les gens. Voilà. Merci Silas pour le 13e mois. C'est oui, c'est Alexandra, c'est oui. C'est la chouette de Harry Potter. Ok. Oui, Sugar, je t'ai vu. On va lancer. Démarrer le live, c'est parti. C'est un hibou, hein? Ah, c'est ça. Je savais bien. Oui, gros sujet sur l'Ukraine, tu as raison. Attendez, je vais nous coller le deuxième chat. Hop. Voilà. Hip. Voilà. Et accueillons nos amis de TikTok qui nous rejoignent. Double chat, deux fois plus de plaisir. C'est incroyable. Voilà. Ou d'ailleurs. J'ai oublié de donner les droits de modération à quelqu'un qui me les a demandé. Bon, je le ferai au prochain stream. Merci Céleste encore. T'as déjà vu Lydia sans lunettes? Oui, je crois. Je sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui. Qui me disait? Je remonte dans le chat un petit peu. Attendez. Qui me disait? Attends, je remonte. C'est Nico, je crois. Je t'ai perdu, Nico. Nico regrettait, oui, 55 000 signatures seulement sur la pétition pour le retour de questions pour un champion en semaine. Bon, moi, je... Samuel était dans Secrétaire Sexy aujourd'hui. Salut, Arthur Isio. Ah oui, je m'interroge. C'est-à-dire que moi, je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant que question pour un champion disparaît. Disparaît à la rentrée, ne sera plus là le lundi. Ne sera plus là le mardi, ne sera plus là le mercredi. Ne sera plus là le jeudi, ne sera plus là le vendredi. Pour la première fois depuis 37 ans. Et ne sera là que le samedi et le dimanche. Bon, les téléspectateurs vont s'en rendre compte là, début septembre. Je ne pense pas que la plupart des téléspectateurs de Question pour un champion ont lu les quelques articles dans la presse et sont penchés sur les quelques posts sur les réseaux sociaux. La tristesse, elle va être là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je lance une bataille totale? Mais sans doute un espèce de bras de fer perdu d'avance pour accompagner la colère et la tristesse des gens. Voilà. Bien sûr, Blue Rage peut te faire une dédicace. Et hop, spéciale dédicace. Ou est-ce qu'on estime que c'est un combat déjà perdu et que ça me met dans le camp des rageux, des frustrés, des ceux qui ne vont pas de l'avant, vous voyez, c'est pas facile, hein. Voilà. Donc selon mes sources, l'émission continue en semaine. Source 2 points Volvic, merci Sque pour cette info, merci à Vanette Biscotte pour le deuxième mois, merci Titia. La région Rennes vous salue. Je salue la région Rennes où je vais cet après-midi d'ailleurs, Fifi Pèlerin. Après ce stream à midi je vous quitte. J'ai un TGV en début de ouais, la mi-journée à Gare Montparnasse. Si vous voyez je fais toujours la même blague, si vous voyez un beau gosse, un grand gaillard d'un mètre 85, costaud, à la démarche chaloupée, un rien féline même, je dirais, le regard magnétique en début d'après-midi à Gare Montparnasse, c'est pas moi, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Je fais toujours la même blague, là, c'est ma blague de cet été, là. Voilà. Donc, oui, je vais voir mon frère et ma soeur, ma famille, cet après-midi. J'emmène l'ordinateur dans le train. En fait, ça va bosser un petit peu, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. C'est... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... J'aime bien cette blague et moi, elle me fait rire. Moi aussi, Pouli. Donc, j'hésite. Votre avis, vous? Est-ce que j'accompagne la colère et la tristesse des gens qui, à mon sens, va se déclarer réellement à la rentrée? Mais je veux dire, quel intérêt? Qui suis-je? Hein, pour faire changer la vie, la direction d'un grand groupe de l'audiovisuel. Voilà, c'est. Vous voyez, c'est, ça me met dans le camp du passé, sinon du passif, quoi. Alors que cette énergie, on peut la mettre sur autre chose, je sais pas. Je n'arrive pas à me décider. Je suis un taureau breton, c'est-à-dire je suis très, très lent à me décider. Après, quand je décide un truc, en général, je vais au bout, un peu têtu, mais ouais. Il faut se battre. Ouais. Bah oui, mais se battre pour la beauté de la chose. Merci Nils, merci Théopina, merci Nico. Est-ce qu'on met pas plutôt son énergie sur le stream, sur les projets, sur le The Event, sur la rentrée de Samplay, hein, sur tout ça? Voilà. Je ne suis pas convaincu, me dit Amigra, tant que la direction ne change pas, tu seras considéré comme un pisse-froid. Voilà, c'est une expression un peu ancienne, pisse-froid. Les jeunes générations n'utilisent pas, à mon avis. Merci à un homme lent pour le 29e mois. Moi aussi, je t'aime. Merci du duche du rock au hasard pour le 13e mois. Où est-ce que je veux dire? Je veux pas. Voilà, je veux pas apparaître comme un aigri. Parce que je le fais pas pour moi. Question pour un champion, je le fais pour le public. Personnellement, depuis quelques années, l'essentiel de mon investissement, vous le savez, il est ailleurs, quoi. Voilà. Tu peux dire bonjour à ma maman, elle s'appelle Teresa. Bien sûr, Tom. Bonjour Teresa. Bonjour Tom. Merci Gogo pour le 23e mois. Go next, comme disent les jeunes, me dit Pouli. Vous voyez? Mais à l'inverse, si je lâche l'affaire, c'est-à-dire si je n'accompagne pas la colère et la tristesse des téléspectateurs de questions qui, à mon avis, va se matérialiser à partir de septembre, je suis aussi celui qui abandonne le jeu, quoi. Go next, aller de l'avant, mais lâcher l'affaire, lâcher finalement les téléspectateurs de questions, lâcher cette histoire incroyable. Pas facile. Tu n'es pas un lâcheur, ben oui. Ni un lâcheur, ni un lécheur d'ailleurs, mais non, tu suis une autre route. Ouais. Non, tu n'abandonnes pas le jeu, il faut que ce soit les téléspectateurs qui réagissent fort. Pas lâcher, mais évoluer, tu as tout donné, pas de regret, me dit Yann. Tu as donné des années déjà, 9 ans. C'est France Télé qui abandonne le jeu, pas toi. C'est pas faux, ça. Merci Big Bang. Courage Sam, t'as le droit d'être un peu aigri sur le moment aussi. Mais en fait, je suis pas aigri, moi. C'est ça le problème. Moi, en général, au bout de 3 à 4 ans, 3 ans d'une aventure, j'ai envie de passer à autre chose. C'est pour ça que je change régulièrement d'aventure, de médias. Voilà. Et question, je l'ai fait pendant 9 ans. Pas pour moi, parce que je trouve que le jeu me dépassait, était plus fort que moi, et il y avait une histoire à assumer. Julien l'avait assumé pendant 27 ans, et donc j'avais bien compris qu'il y avait quand même un public de fous pour Question pour un champion, extrêmement fidèle, extrêmement attaché à ce jeu. On n'est pas pour rien numéro 2 des audiences tous les soirs sur cette case. Et donc je m'étais dit, tu peux pas arrêter ce jeu, tu l'accompagnes aussi longtemps que tu pourras l'accompagner, quoi. Idéalement, je suis ma retraite, puis après, je passais la main, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas présenté question 3 ans ou 4 ans, mais 9 ans. Ce que j'avais pas prévu, c'est que c'est pas moi qui arrêterai le jeu, finalement. Donc, il n'y a pas de l'aigreur, parce que moi, dans ma tête, ça fait longtemps que je suis passé à autre chose. Mais il y a de la tristesse pour le public et les équipes de questions pour un champion. Nas, est-ce que tu peux faire une dédicace à ma maman qui s'appelle Malika? Mais bien sûr, Malika, Nas, je vous embrasse tous les deux bien fort. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je reçois des invitations de médias. On me demande de donner des interviews sans arrêt pour me faire dire ce que je pense de cette histoire. C'est des propos assez négatifs. Ouais. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'apparaître aux yeux du public comme l'aigri originel, quoi. Le mec qui arrête pas de râler toute sa life. On en a connu d'autres avant moi. Vous voyez, et en fait, moi j'ai refusé la plupart des interviews. J'en ai donné une à Libération en juin dernier. Et j'en ai donné une à France Inter, parce que c'est une amie qui faisait l'émission Constance Villanova il y a quelques jours. Mais en fait, je veux pas. Voilà, je veux pas. Le Schtroumpf grognon, voilà. Heure dead. Je ne veux pas. Spinoza aurait dit, cela ne dépend pas de toi, mais cela ne doit pas t'atteindre. Merci, Miscalou. J'aime qu'on cite Spinoza sur ce chat en vrai. Donc voilà. Et en même temps, en refusant ces interviews, ça veut dire que je refuse de porter la bannière de la tristesse et de la colère des gens. Donc, à la fois, je le fais pour pas apparaître comme l'aigri originel, et en même temps, je me dis, j'abandonne les gens. Je n'arrive pas à me décider là-dessus. Franck Ribéry aurait dit, la rotonde va tourner pour question pour un champion. Voilà, pas facile. Spinoza aurait dit go next. Ah, mais il y a des SQS qui me demandent mes perspectives pour l'avenir. Oh, ben, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je pourrais continuer à faire ce que j'ai fait avant, de la radio ou de la télé. C'est ce que je fais depuis 30 ans. Mon cœur et mon envie est plutôt maintenant sur ce que j'appelle les nouvelles plateformes, notamment Twitch, et YouTube, et TikTok, et Insta, etc. Donc, j'ai pas d'inquiétude pour mon avenir personnel, et même pour mon envie de. C'est pour ça que je change régulièrement d'aventure, c'est pour renouveler l'envie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il disait Johnny? L'envie? Qu'est-ce qu'il disait Johnny? Je connais pas par cœur mon Johnny. Tu vois, l'envie d'aimer? Non? C'était quoi Johnny? L'envie d'avoir envie? C'est ça, l'envie d'avoir envie. Voilà. Et donc, l'après, ça fait longtemps que je l'ai trouvé. Mais c'est pas une histoire qui me dépasse. Question pour un champion, j'ai toujours dit, c'est une histoire qui me dépasse. C'est une histoire qui est plus forte que moi. On m'a confié un truc. Moi, dans mon esprit, j'allais prendre soin de ce bébé qui s'appelle Question pour un champion, qui est un gros bébé, qui est un peu âgé, qui a 37 ans. Et je vais le dorloter, je vais le maintenir en état en termes d'image, de dynamisme, de jeunesse, des candidats qui sont de plus en plus jeunes. Moi, je suis déjà vieux. Et d'audience, les audiences sont excellentes. Et après, je passe le bébé, le vieux bébé, à un nouveau présentateur, idéalement une présentatrice, il y a eu deux mecs avant, et l'aventure se poursuit. Voilà. Et quelque part, bah, j'ai pas réussi ce truc, quoi. J'ai pas réussi. Merci les Titi pour le 12e mois. Merci Nico, Los, merci Nils, merci de King House. Oui, c'est dilemme, dilemme. Et je n'arrive pas à. Et le problème va se poser dans quelques jours, parce que dans quelques jours, les téléspectateurs vont réellement se rendre compte. Ceux qui disent l'aime dans le chat, parce que je dis dilemme, je vous vois. Salut Twitch, Zorodref. Je vous vois ceux qui disent l'aime parce que je dis l'aime. Je dis dilemme. Et voilà, et dans quelques jours, je pense que cette colère et cette tristesse va se matérialiser. Et j'ai deux choix, j'ai deux routes, j'ai deux chemins. Ou accompagner cette colère, cette tristesse, en parler, continuer à communiquer sur le fait que c'était une mauvaise décision, en parler dans les médias, longueur d'interview. Voilà. Et passer pour l'aigri originel. Voilà. Mais d'un côté, ne pas abandonner cette histoire. Et de l'autre, ben, passer à ce que je fais depuis 5 ans, c'est-à-dire dire tant pis, c'est pas ma décision, c'est pas moi qui l'ai prise, j'en suis pas responsable, et j'avance, quoi. Mais quelque part, j'ai l'impression d'abandonner les gens. Voilà. Donc je ne sais pas quoi faire. C'est déjà ce que tu fais ici, tu n'abandonnes pas, c'est une fin. En parler changerait quelque chose? Non, mais c'est presque un positionnement moral en fait. C'est des grands mots, hein, pardon. Hein. Mais c'est un positionnement moral. Encore une fois, pour le dire très clairement, je n'ai pas besoin de questions pour un champion pour vivre. Je n'ai pas besoin de la télévision pour vivre. Et ça fait quelques années déjà que mon centre de gravité professionnel, il est plus là, il est plus là, quoi. Mais c'est plus un truc moral, quoi. De pouvoir. Quelques années, me retourner en me disant, voilà, tu as fait ce qu'il fallait faire, quoi. Bon, déjà, j'ai dit les choses très clairement, que je me suis quand même mis en porte-à-faux très clairement par rapport aux gens qui ont pris cette décision. Bon, je trouve que j'ai été responsable dans cette histoire, quoi. Dans un monde où, souvent, les choses ne se disent pas, quoi. Donc, ça, je l'ai fait. Ouais, c'est une forme d'éthique où on bannit, c'est ça. Donc, je l'ai fait, ça. Mais jusqu'où il faut que je le fasse? Qui m'écrit? Ah, c'est mon amoureuse. Qu'est-ce qu'elle dit, mon amoureuse? Elle arrive au travail. Que te dit ta morale dans cette histoire? Bah, ce que j'ai fait jusque-là, c'est-à-dire dire ce que je pensais de cette histoire. Comment ça, bonne fête? C'est la fin Hélène, c'est la Saint-Hélène, Nicolas, aujourd'hui ou pas? C'est-à-dire dire les choses, ce qui est pas un truc qui se fait vraiment dans cet univers-là. C'est la Saint-Hélène? Ah, vous m'excusez, je passe à coup de fil alors. C'est vraiment la Saint-Hélène? Je coupe le micro. Ça arrive. Elle était sur le stream, mais ça a coupé. C'est drôle parce que elle était sur le point d'arriver au boulot et elle était sur le stream. Voilà. Donc elle a vu le chat me dire que c'était la Sainte-Hélène. Elle a bien ri. Elle a bien ri. Elle me dit, je suis toujours là au bon moment. Merci les Titi pour le 12e mois. Merci Gogo pour le 23e mois. Merci Un Homme Lent pour le 15e mois. Merci. Merci Nils. Merci Nicolas. Merci Anime. C'est drôle. Il pourrait mettre une petite musique d'attente, c'est vrai. Bon, bah voilà, voilà pour ce dilemme. Ce dilemme qui était un dilemme moral, en fait. Que j'ai pas tranché. Que j'ai pas tranché. Encore. Mag dit, de mon point de vue, ça va rien changer, ou tout du moins, il ne faut pas que ça vienne de toi, mais du public. En tant que présentateur, forcément, tu veux que ça continue. Mais pour avoir un impact sur la direction, il faut que le public habituel se mobilise. Mais pas facile de dire ça sur Twitch pour nous, pas sûr que la majorité des téléspectateurs réagissent vraiment. Ouais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. N'oublie pas les fleurs ce soir, me dit des... Oui, mais ce soir, je vais rentrer à la maison. Il sera presque minuit de retour de la Bretagne. Donc, je pense que c'est râpé, quoi. C'est Mimi, tu stoppes tout pour l'appeler. Ah bah oui, il faut y a... Dans la vie, un des trucs importants pour arriver à une forme d'équilibre, c'est de hiérarchiser les choses. Vous êtes super important. Vous êtes ce que je vis... Ce que je vis sur ces nouvelles plateformes depuis quelques années, c'est vraiment, je me régale, je vis ma meilleure vie. Mais la famille, c'est encore plus important. Donc, on coupe le micro. Prendre la parole lors d'interview serait justement prendre la défense de l'émission. Ouais, mais vous voyez. Mais ce que je veux dire, ça va, les gens vont dire, c'est l'aigri, c'est l'aigri, c'est le gros aigri, quoi. Ouais, ça m'ennuie. Tu bois plus de café? Non, je suis à l'eau. Bon, allez, assez parler de moi, c'est bon là. Le nombrilisme du gars, on va parler de l'actualité. Vous, comment ça va, vous? En général, on fait une petite demi-heure d'intro. On a une petite demi-heure d'intro. Pourquoi t'as pas la même coupe que sur Question pour un champion? Parce que ce que tu vois cet été sur France 3, en ce moment, c'est des rediffs en fait. Il y a plus de sous, donc maintenant ils mettent des rediffs tout l'été. Donc c'est des émissions qui ont pu être tournées en janvier ou on... Ou en septembre. Et depuis, je me suis coupé les cheveux. Ce truc n'a aucun sens. Comment ça va, vous? C'est bon. Anniversaire de mariage, Bubo Scandiacus. Bon anniversaire. C'est chouette. C'est chouette, je pense que tu l'as. Chaud, chaud, chaud sur Marseille, trop chaud. Ok. Bien sûr que je vois toujours Fugu et Lydia. Zorodref. Et Lydia, je vais la revoir au The Event. Voilà. Je joue moins. Je joue moins avec elle parce que je trouve que le delta de niveau, il est trop fort, la pauvre. Mais bien sûr, c'est mes amis. Est-ce qu'on peut commencer par la conférence au sommet Trump-Poutine? On va commencer par ça, ouais. Ouais, exactement. On respire à Lyon, ça fait du bien. Petite journée de reprise pour Marine Tartine. Ah, on va voir Hollywood. Ce serait incroyable, ça. Salut la Belgique, salut Fraise des Bois. J'ai une formation à préparer, je n'arrive pas à me motiver, du coup je viens sur le stream pour traîner, mais ça va. Sparkling, force! Allez, allez, on donne tout la formation là. Allez, allez, Sparkling, tu te laisses le stream en fond, puis tu lui donnes tout ce que t'as là. Allez, tu prends ton destin en main, toute ton énergie. Allez, allez, allez. Petit café, je viens d'adopter un petit chaton adorable, Zoé comme le dragon. Joli pseudo. On aime les dragons. Ici. Ostéo aujourd'hui, problème au cervical, on commence à vieillir. Ouh là, Wombanim, on connaît. On connaît. Je rêve de course à pied la nuit, il est temps que le prochain trail arrive, on dirait un drogué. Comment s'appelle l'addiction au cœur, au sport une époque, je connaissais bien ça. L'addiction au corps, au sport, c'est un nom scientifique. La bigorexie, joli Candy Batch. Joli anonyme, ouais. La bigorexie, c'est quand le sport devient une drogue. Ouais. Bravo, vous êtes fort. Hein. Salut Quentin. Il faudra qu'on aille courir un jour avec tes abonnés de ton live. Oh, mais je fais ça régulièrement. Je fais des courses à pied que je stream. La connerie? Non, la bigorexie. Préparation d'un petit road trip pêche à la carpe pour demain. Oh, Miscalou. Je fus pêcheur quand je fus jeune. Bon, bonjour de Tahiti. Aloha, c'est comme ça qu'on dit? Je suis jamais allé en Polynésie. Aloha, c'est bonjour? C'est un nom? Ou bienvenue? Je sais plus. Et au revoir. Ok, bon, alors bonjour. Hello de Tokyo. Salut Mathilde, ça va? Yaorana? Ah donc c'est pas Aloha, c'est Yaorana? Ok. Ah, c'est hawaïen. Ah d'accord, et à Tahiti c'est Laorana. Ok. Aloha, c'est Hawaï. Oh, pardon. Autant pour moi. D'accord. Bien sûr, Eurodrive, ce sera fait. Ok, let's go. Les amis, merci d'être là ce matin. Très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui découvrent cette revue de presse, c'est tous les matins. 9h midi, 9h30, midi 30. Qu'est-ce qu'on fait? On lit les journaux. On lit les journaux quotidiens nationaux. Voilà. Je vous montre lesquels. Ça, c'est ma petite tablette. Bougez pas. Voilà. Hop. Je vous montre pas mon code. C'est parti. Voilà. On lit les journaux. Donc, tous les matins, moi, c'est mon petit plaisir. Je lis Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Je pourrais lire bien d'autres choses. La presse française. Et bien plus que ça, je pourrais lire la presse régionale, je pourrais lire la presse magazine, je pourrais lire la presse qui n'est que sur Internet, je pourrais lire plein de presse, mais bon, j'ai choisi cette presse-là parce que c'est la presse que j'aime bien lire, c'est un choix très subjectif, qu'en vaut un autre. Voilà, en vrai, je pourrais lire bien d'autres presses, mais c'est celle que j'aime bien lire, notamment parce que bah, tous les matins, elle sort quotidienne nationale, c'est une presse quotidienne qui sort tous les jours, nationale, donc qui s'intéresse à l'actualité nationale et internationale, et elle passe en revue, chacun de ses journaux essaie de passer en revue à peu près toute l'actualité qui se passe en France et dans le monde. Donc ça nous fait une diversité d'informations, ça nous fait différents regards, puisque tous ces journaux, hop, que je vous remontre, n'ont pas le même regard sur l'actualité. Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe n'ont pas le même regard sur les actualités, sur les news, et ça me permet de multiplier les regards, et donc les sources, et ça c'est plutôt intéressant. Bon, si vous avez envie de lire d'autres presses, bah, allez les lire, en vrai, lisez cette presse, et puis, ou alors allez voir des créateurs de contenu qui s'intéressent à d'autres presses, mais même, moi c'est celle que j'ai choisie. On commence par un sommaire, c'est-à-dire en quelques minutes je vais vous donner l'essentiel de l'actualité, on va pas aller dans le détail, mais je vais vous dire de quoi parlent les journaux ce matin. Et après ce petit sommaire de 5-10 minutes, eh bien, on va lire ces journaux et là, on prend le temps, on essaie de comprendre, on vérifie les sources, on check les infos, on en parle ensemble, on en débat ensemble. Mediapart, excellent, bien sûr. Yann Malcolm, bien sûr, c'est un exemple. Voilà. On parle énormément de l'Ukraine dans la presse ce matin. D'abord, on va revenir avec Le Monde. Ah putain, j'ai pas fait les captures d'écran du Monde. Le Monde, il bug en... Voilà, j'en étais sûr. Excusez-moi, Je prends 2 minutes. Bon. On va d'abord lire Le Monde sur l'Ukraine. Le Monde, dernière édition qui est sortie ce week-end, qui est excellente pour revenir sur le sommet Poutine-Trump. Pour résumer ce que j'en pense, on s'attendait à rien. On a quand même été déçus. Attendez, je fais une petite capture d'écran. C'est la une du Monde. Et deux pleines pages. Et aussi un édito. Je suis en train de vous les mettre de côté. Voilà, je trouve que c'est assez clair sur ce qui s'est passé entre Trump et Poutine. Le fameux sommet en Alaska, là. Hop. Voilà. Et après, je vais chercher l'édito qui est à la fin. Puis après, on lira d'autres articles sur le fait que Zelensky a reçu à la Maison-Blanche, mais qu'il n'est pas seul, qu'il est accompagné par les Européens. Une mobilisation, une activité diplomatique autour de l'Ukraine qui est juste insane. Alors, c'est pas tout, parce que dans Le Monde, on ira lire des trucs sur le Proche-Orient. Pardon, j'ai oublié de vous les mettre de côté ce matin, parce que Le Monde, je peux pas vous le lire en direct, vous faire des petites captures d'écran, parce que ouais, y a un petit conflit entre l'iPad et le PC sur certains journaux, notamment Le Monde. Hop, papapapap. Il y a un truc sur le Proche-Orient, sur la Cisjordanie qui est intéressant dans Le Monde. Il y a aussi un truc sur le sommet, sur le plastique, qui a échoué, en tout cas pour les partisans de la limitation de la pollution plastique dans le monde. Donc on lira ça, je trouvais ça intéressant. Et puis il y a un truc à la fin, je vous le lirai, sur l'industrie du robot en Chine que j'ai trouvé passionnant. On finira avec ça. Voilà, pardon. J'aurais dû le faire ce matin au petit-déj et j'ai oublié de vous mettre de côté. Voilà, là on est prêt. Ok, pardon. Et en même temps, ce faisant, j'ai commencé le sommaire. Tac. Voilà. Et normalement, là, vous l'avez. C'est bon. Donc, la une du monde, la voici. Voilà. La une du monde, c'est ça. Putain, c'est pas possible. Ça, c'est celle d'avant, ça. Là, voilà. Alors, là, le sommet, le sommet, c'était quand? C'était vendredi. Voilà. Et nous, on n'a pas streamé vendredi. On n'a pas streamé samedi et on n'a pas streamé dimanche. Voilà. Je suis pas sûr dans les journaux de samedi, d'ailleurs, il y avait toutes les infos, puisque le sommet était vendredi soir. T'as eu des fécators. Et donc, on revient avec Le Monde de ce week-end. Moi, je le résume comme ça. Hein. On s'attendait à rien. On a quand même été déçus. Le sommet Trump-Poutine s'est conclu sans cesser le feu en Ukraine. Au cours d'une rencontre de 2 heures et demie en Alaska vendredi 15 août, le président américain n'est pas parvenu à contraindre son homologue russe, c'était sans doute pourtant son espoir. Trump met la pression sur les Ukrainiens et les Européens pour le règlement du conflit. On va longuement en parler ce matin. Zelensky a annoncé samedi matin qu'il se rendrait à Washington ce lundi. Et il n'est pas seul, il est accompagné par les Européens. Donc on lira cet article du Monde. Trump échoue à obtenir de Poutine un cessez-le-feu en Ukraine. Donald Trump et son obsession pour le prix Nobel de la paix. Hein. Trump, c'est l'un de ses goals. Certains ont des donation goals. Lui, il a un goal, c'est d'obtenir le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Comment? On lira cet article. Et puis, on lira un édito. Un édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Et on lira l'édito du Monde sur la question de l'Ukraine. Sur le même sujet, je vous lirai l'article de La Croix. Voilà. Ici, sur le fait que Zelensky ne va pas à Washington, ne va pas à la Maison-Blanche seul cette fois. On se souvient du moment où il avait été reçu à la Maison-Blanche par Trump et d'une certaine façon humilié, presque rendu responsable de la guerre en Ukraine par Trump. Il n'est pas seul. Zelensky et les Européens en rang serré à Washington. Le président ukrainien se rend ce lundi à Washington et contrairement à son entrevue qualifiée de catastrophique par La Croix de février dernier, que j'évoquais à l'instant. Il sera cette fois accompagné de plusieurs leaders européens, dont le président français Emmanuel Macron, ou encore la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc on verra ça. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet ce matin, c'est carrément la une de Libération. Voilà. L'Europe à bloc. La légende dit que seul Chuck Norris peut régler ça. Pedro, c'est pas complètement faux. 3 jours après la rencontre entre Trump et Poutine, les dirigeants européens, plus vigilants que jamais, serre les rangs autour de Zelensky, invité ce lundi à la Maison Blanche. C'est une image assez incroyable en vrai, qu'on va voir aujourd'hui. Washington, le rendez-vous de tous les dangers. Voilà. Volodymyr Zelensky, sous pression, débarque ce lundi à la Maison Blanche, accompagné de la plupart de ses alliés européens. Match retour soigneusement préparé pour Zelensky. Voilà, on lira le dossier de Libé sur la question. Donc ce matin, vous verrez, il sera beaucoup question de l'Ukraine. Il y a une actualité que je suis au quotidien aussi, c'est l'actualité du Proche-Orient, ce qui se passe autour des Palestiniens et d'Israël. Il est rare, les matinées étiennes, où je n'en parle pas. J'ai trouvé un article assez important dans Le Monde ce matin, qui est ici, sur ce projet de colonie pour morceler, pour couper en deux littéralement la Cisjordanie. C'est un souhait, un désir de l'extrême droite israélienne qui a des représentants au sein du gouvernement Netanyahou, qui a plusieurs ministres, hein, vous le savez. Et l'extrême droite israélienne veut porter un coup de grâce contre l'idée d'un État palestinien. Hein. Les partisans de ce projet disent si jamais on arrive à créer cette nouvelle colonie pour couper en deux la Cisjordanie, on ne voit pas comment ils vont réussir le camp d'en face à obtenir un État palestinien. Voilà, donc on se penchera sur ce projet qui est combattu par de nombreux acteurs depuis des années. Mais là, l'extrême droite israélienne met la pression sur Netanyahou en disant, si tu ne lances pas ce projet, eh bien, on quitte ton gouvernement, on fait tomber ce gouvernement. Et on sait que pour Netanyahou, rester au pouvoir est, comment dire, un goal essentiel. Donc on lira cet article. Je vous ai parlé du plastique tout à l'heure. Masterclass du monde, il y a vraiment beaucoup d'articles intéressants dans cette dernière édition. Je vous ai beaucoup parlé ces dernières semaines de ce sommet sur le plastique. Hein, on a une pollution au plastique qui est en train d'exploser dans le monde, liée à la production de plastique, liée à notre consommation. Voilà, ça a des conséquences incroyables, délétères sur l'environnement et sur la santé, notamment la santé humaine. Et on avait 183 pays qui étaient réunis à Genève et qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un traité international pour lutter contre cette pollution omniprésente. Pourquoi? Parce que il y a des partisans de la limitation de consommation et de production de plastique, voilà. Et puis il y a des opposants à cette limitation, notamment des pays pétroliers, puisque le plastique c'est fabriqué à partir de pétrole, qui ne veulent pas évidemment que tout ça soit limité. Donc je vous lirai le résultat. Alors tout espoir n'est pas complètement perdu là-dessus, mais l'article du Monde est vachement intéressant parce que quand je vous parle d'un traité, en vous disant ce traité, ce sommet est important parce que il faut que je vous en donne aussi son résultat. Autre actualité ce matin, oh, un peu de politique. Un peu de politique. La présidentielle approche doucement 2027, voilà. Merci Noctaton. Attendez, je lis le message de Noctaton qui fait plaisir à tout le monde. Noctaton, je sors de l'ombre pour vous remercier Samuel de ce rendez-vous quotidien qui est très pratique pour mon travail de veille et en même temps me rappelle mon enfance où le matin c'était lecture de journaux avec ma soeur et mon papa. C'est pas trop mignon? Et merci au chat pour leurs réflexions souvent très pertinentes ou au contraire merci pour les vannes. C'est pas beau ça? Je repars me cacher. Belle journée à tous. Bonne journée à toi. Merci, merci Noctaton pour le soutien. Merci Letidi, merci Gogo. Merci Manu, merci Blanc, merci moi je m'aime. Voilà, donc la présidentielle. La présidentielle, on en parlera avec Libération. J'ai hésité à vous lire ce papier, parce que je ne trouvais pas l'histoire très très claire. Mais en fait, ce n'est pas l'article qui n'est pas clair. C'est la situation politique en France. C'est un bordel. C'est un bordel. Hein? Je crois qu'il y a une vieille expression qui est une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Présidentielle 2027 à la recherche de la recette Mirage. Malgré des ambitions affirmées, les futurs candidats à l'Élysée tâtonnent entre concepts flous, slogans creux et électorat désengagé. À 21 mois de l'élection, le socle stratégique de la campagne reste à construire. En fait, l'article, qui est pas évident d'appréhension, nous explique que finalement, les candidats savent pas trop quoi nous vendre. Voilà. Certaines ont bien envie de se présenter à la présidentielle, mais avec quel programme, avec quel corpus idéologique, voilà, à la recherche de la recette Mirage. Alors évidemment, nous, on est des comment dire, des idéalistes. On pense que la politique, c'est une histoire de conviction, de valeur, de gens qui nous disent, voilà, moi, je pense que notre pays, l'humanité doit aller dans cette direction. Voici les mesures que je propose. Et puis, et Libération est au contraire très, comment dire, pragmatique ou très pessimiste. Merci 7 le 7e pour ce magnifique raid. Et il nous dit non, finalement, les politiques, ils sont à la recherche de la recette pour gagner l'élection. Bon, alors le problème, c'est que, d'après Libé, ils n'ont plus la recette, ils ne savent pas quoi faire, parce que les partis sont éclatés, hein, l'Assemblée l'est aussi, et finalement les électeurs aussi. Donc, ce qui, évidemment, Libération ne dit pas pour l'instant un mot de ma propre candidature à la présidentielle, mais quand ils vont voir ça débouler après le The Event, après le 1 000 000 d'euros que nous allons collecter pour les associations, eh bien, gageons que des articles, il y en aura. On va bien rigoler. Au sens propre ou figuré? Non, non, je me présente, Mirk. Je me présente. Enfin, je me présente si, au The Event, on arrive à 1 000 000 d'euros sur ma cagnotte, histoire de motiver les gens. Voilà. On en reparlera. Donc voilà, on parlera de ça, on parlera de ça, et puis on parlera aussi de des. Tiens, puisque je parle de petits candidats, il y a un article aussi dans. C'est dans Libé? Non, c'est pas dans Libé, c'est dans le Figaro, sur les petits candidats. Les petits candidats. Soyons pas moqueurs ni réducteurs. Les petits candidats, c'est ceux qui font un petit score à la présidentielle. Et qui n'ont véritablement aucune chance de se faire élire. Hein, les Dupont-Aignan, les Lassalle, les Asselineau. À l'approche de 2027, article page 6 dans le Figaro, le retour des inépuisables candidats à la présidentielle. Il y a eu Arlette Laguiller à une époque, hein, qui se présentait à chaque présidentielle. Lutte ouvrière, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui avait aucune chance, d'après les sondages, de remporter, mais qui se présentait notamment pour porter ses idées. Parce que dans un régime de politique comme celui de la France, qui est un régime présidentialiste, qui est celui de la Ve République, eh bien, certains petits candidats disent c'est une tribune incroyable, notamment une tribune médiatique, pour présenter mes idées. Donc il y a beaucoup de candidats qui disent, ok, je ne veux pas être élu, mais je profite de la caisse de résonance de la présidentielle, caisse de résonance médiatique pour porter mes idées. Je vois que certains nous rappellent le score d'Anne Hidalgo. J'ai oublié, Anne Hidalgo s'est présentée à la présidentielle? Je rappelle Valérie Pécresse qui avait fait un score tellement petit que elle avait lancé un appel à la cagnotte, mais... Ah oui? C'est vrai? Avec le PS? Oh merde. Oh, j'ai oublié. 2,34%? Non. Non. Je l'avais interviewé d'ailleurs? Ah oui, c'est vrai, peut-être, ouais. Ah ouais. Elle avait fait un score de bière blanche. Jolie, Nevae. 2,4%? J'avais oublié. Ah oui. Bon, bah voilà. Donc, article intéressant sur les petits candidats. D'accord. Pécresse, ça va être une catastrophe aussi. Alors, c'est aussi une illustration d'ailleurs de l'éclatement des partis politiques. La salle avait fait plus que Pécresse à Hidalgo. Oh là 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 là. Bah, j'avais zappé. Voilà. Dans ma mémoire, j'avais fait de la place pour autre chose. Ouais, peut-être pour mes skills sur Valo, je sais pas. Est-ce qu'on finira avec ça? Non. On finira avec les robots. Voilà. Encore un article dans le Monde très intéressant. Voilà. À une époque, il y avait des articles sur la robotique, sur la révolution robotique, mais tous les jours. Hein. Puis ça s'est un peu calmé. Voilà. Je sais qu'il y a il y a des grosses boîtes de robotique, notamment françaises, européennes, qui ont eu qui ont eu des problèmes, hein, qui n'ont pas réussi à avoir leur business plan transformé. Et là, on a un article dans le Monde que je trouve assez intéressant sur le fait qu'en Chine, ils prennent ça très au sérieux. Voilà, l'industrie du robot est en ébullition en Chine. Voilà, Pékin était cette semaine la capitale d'un secteur, je crois qu'il y avait un énorme salon, qui pourrait peser jusqu'à 5 000 milliards de dollars en 2050. Alors, je ne suis pas très fort en maths, mais 5 000 milliards de dollars, ça me semble beaucoup quand même. Le déficit de la France, c'est combien? On est à combien là? Oh, j'ai oublié, putain, c'est dur. Combien le déficit de la France à la louche aux dernières nouvelles là? À mon époque, c'était 1 000 milliards, mais ça a augmenté. 3 500? Ah oui, dans ma jeunesse, c'était 1 000 milliards et on disait à l'époque 1 000 milliards. 3 500 milliards? Voilà. Eh ben, l'industrie de la robotique en 2050, ce sera 5 000 milliards de dollars. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Non, mais déjà 1 million. 1 million déjà. Vous vous rendez compte de ce 1? Hein 1 million déjà. Vous rendez compte ce que ça représente? Alors, 1 milliard. Hein? 5 000 milliards. Donc voilà. Non, mais en vrai, voilà. Pourquoi et en fait, j'apprends par ce reportage du correspondant en Chine du Monde, qui s'appelle Vincent Pagot et Jordan Pouille. Et j'apprends qu'en fait, la Chine a un peu pris la main sur ce marché, sur cette industrie. Bon, c'est plutôt intéressant. Voilà les amis. Voilà pour le sommaire, voilà pour l'essentiel. Alors, c'est vraiment que l'essentiel. Hein. Je fais ça à bride abattue pour vous donner l'essentiel de l'actualité, ce qu'il ne faut pas rester 2-3 heures avec moi. Puis maintenant, on va lire ces journaux. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Merci Bonne pour le message. Voilà, et puis on va échanger ensemble puisqu'on est là pour ça. Voilà. Par contre, alors excusez-moi, hein, je vois j'ai mes deux chats Twitch, TikTok qui défilent. Moi, j'essaie de lire tous vos messages, mais évidemment, quand j'ai l'œil sur l'article, je ne vois pas vos messages. J'essaie d'en voir un maximum et je ne réponds pas à toutes vos questions et je m'en excuse par avance, mais je fais au mieux, quoi. C'est pas beaucoup, 5000 milliards, me dit Régis. Quand j'étais petit, je kidnappais la poupée de ma sœur et je demandais 6000 milliards. C'est incroyable, ça. Mais attends, mais est-ce que ta sœur a payé, Régis? Est-ce que ta sœur a déjà payé les 6000 milliards? Parce que si ta sœur a payé 6000 milliards, ça veut dire que tu as au moins 6000 milliards. Si tu les as bien placés, même depuis ton enfance, tu as gagné encore plus d'argent. Ça veut dire que tu peux supprimer d'un trait de plume le déficit de la France. On a parlé de 3500 milliards. C'est-à-dire que tu donnes la moitié de ta fortune et il n'y a plus de déficit en France. Non, pauvre poupée, elle n'a pas payé. Ah ben, ça ne sera pas payé. Ça ne sera pas payé, donc bon, tant pis pour le déficit. Sacré Régis. Merci Manu, merci Blanvin, merci. Votez Régis. Non, votez Samuel. Donc c'est que ta soeur n'a jamais récupéré sa poupée, quoi. C'est fou, ça. On apprend des trucs le matin. Donc, Popo a raison. Il y a un monde où le fait que le déficit budgétaire est aussi important en France aujourd'hui, c'est la faute de qui? De la soeur de Régis. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais soeur de Régis, si tu nous regardes, si on est un peu dans la mouise aujourd'hui, c'est un peu à cause de toi. Hein? Merci Marc. Régis, la France compte sur toi. Non, non, la France compte sur la sœur de Régis. Vous ne suivez pas, vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas. Vous ne suivez pas. Vous suivez un peu. Bon. Est-ce que maintenant qu'on s'est dit bonjour, qu'on a pris de nos nouvelles, qu'on a vu l'essentiel de l'actualité, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lise les articles et qu'on parle un peu de l'actu, qu'on fasse la revue de presse, quoi? Est-ce que j'ai votre go? Oui, oui. Carte, on fait cette revue de presse tous les matins. Voilà. Sauf, donc du lundi au vendredi, de 9h à midi en gros, sauf deux semaines par an désormais. Deux semaines où j'enregistre question pour un champion du matin au soir, donc je suis coincé. C'est le cas à partir de mercredi, là. Mercredi, jeudi, vendredi, puis lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine suivante. Je suis en question pour un champion. Là, je ne pourrais pas faire la revue de presse, mais il n'y a que deux semaines comme ça par an. La prochaine, ce sera en mars-avril. Donc, on peut dire que ce rendez-vous, c'est quasiment tous les matins. OK. Bon, on commence par l'Ukraine. On commence par ce sommet entre Poutine et Trump qui s'est passé vendredi soir, mais il n'y a pas eu de revue de presse depuis. Donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé. Puisque c'est plutôt ça. Voilà. Merci Le Monde qui nous fait un dossier assez près là-dessus. Le Château, bonjour Samuel, quelle était ta position sur la Palestine? Le Château, on en parle tous les matins. Attends, il y a un article qui arrive là-dessus. Voilà, sinon tu as 5 ans de replay sur Twitch ou sur YouTube de ma revue de presse. N'hésite pas à te les taper. T'as que 5 ans, tu... 5 ans, 5 ans, 5 ans... Voilà. 5 ans... 5 ans à raison de... Ouais, t'as quelques milliers d'heures à regarder. Voilà. Et quand tu auras fait ça, bah, tu sauras. Non mais blague à part, on en parle tous les matins, donc on en parle tout à l'heure, après l'Ukraine. Let's go. Le sommet Trump-Poutine s'est conclu sans cesser le feu en Ukraine. Au cours d'une rencontre de 2h30 en Alaska, vendredi dernier, le président américain n'est pas parvenu à contraindre son homologue russe. Pourtant c'était son espoir. Donald Trump met la pression sur les Ukrainiens et les Européens pour le règlement du conflit, ça on va le voir. Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il se rendrait à Washington ce lundi. Qu'est-ce qui s'est passé entre Trump et Poutine, ou plutôt, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Trump échoue, c'est un échec pour le président américain, à obtenir de Poutine un cessez-le-feu en Ukraine. En Alaska, le président américain n'a pas réussi à contraindre le dirigeant russe et met la pression sur les Ukrainiens et les Européens pour le règlement du conflit. Lisons cela. En quête de la paix, donc c'était quand même bien l'objectif de Trump, notamment pour son fameux projet d'obtenir le prix Nobel de la paix. En quête de la paix, pursuing peace, c'était le mot d'ordre de la rencontre entre Trump et Poutine, vendredi 15 août en Alaska, donc sur le sol américain, censé arracher un cessez-le-feu sur le terrain en Ukraine et préparer une réunion entre le président américain et ses homologues russes et ukrainiens, Volodymyr Zelensky. C'était l'objectif de Trump, il a échoué. Beaucoup craignaient que ce sommet ne se transforme en un Munich, les États-Unis abandonnant l'Ukraine, agressés mais pas conviés à la Russie comme la Tchécoslovaquie fut laissée à Hitler en 1938, d'où la référence à Munich. Merci Kofepop, merci pour ton soutien. Ou un Yalta, donc autre référence historique, conférence de 1945 qui partagea l'Europe entre Staline et les Anglo-Américains. En réalité, nul ne sait ce qui s'est négocié vendredi en Alaska, si ce n'est que le sommet est un échec manifeste pour Donald Trump. Parce que, attends, alors, je parle d'un échec puisque il n'y a pas de cessez-le-feu et encore moins de paix. Merci Coffee Pop. Mais certains, notamment certains médias, nous disent qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui a été dealé entre Trump et Poutine, sauf qu'on ne le sait pas et que c'est pas officiel. Voilà. Et que c'est peut-être ce que Trump va essayer de proposer à Zelensky. Et ça, il faut l'avoir en tête pour comprendre ce qui s'est passé vendredi dernier. Quand je dis « il ne s'est rien passé », peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que Trump a dealé un truc avec Poutine et qu'on va en savoir plus dans les prochains jours. Je dis bien « peut-être ». Avant la réunion, le président américain avait répété son exigence. Je souhaite un cessez-le-feu rapide. Je ne sais pas si ce sera pour aujourd'hui, mais je ne serai pas content si ça n'est pas aujourd'hui. Donc Trump avait dit, je ne serai pas content s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Voilà. Vous imaginez bien que Poutine, ça l'a fait trembler. Comment ça ? Trump ne sera pas content s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Oh, bah on va arrêter la guerre alors. Voilà. Bon, évidemment, Poutine n'a pas arrêté et Trump, du coup, n'est pas content. Je veux que les massacres cessent, je suis là pour les arrêter. Voilà. Trump, ces derniers mois, s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de demander à Poutine d'arrêter la guerre. Arrête ! Ça n'est pas bien pour que la guerre s'arrête. C'est un peu plus compliqué que ça. Aucun accord n'a été détaillé, même, c'est ce que je vous disais à l'instant, si nul ne peut exclure que les négociations aient progressé, à court terme, la paix attendra. La conférence de presse programmée vers 16h avec Poutine n'en était pas une. Pas de questions de journalistes, juste une déclaration de Poutine de 7 minutes sur l'amitié entre les États-Unis et la Russie, tandis que Trump a tenu pendant 5 minutes quelques propos ambigus, sinon embarrassés, faute d'avoir obtenu les résultats escomptés. Pour Poutine, déjà, alors on vient de dire que pour Trump, c'était pas forcément une victoire, voire c'était une défaite. Pour Poutine, c'est une victoire. Lui qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, et qui évite soigneusement tout déplacement international, a été invité sur le sol américain et évidemment n'a pas été arrêté par les Américains puisque Washington ne reconnaît pas la CPI, la Cour pénale internationale. Pour Poutine, c'est une victoire déjà diplomatique. Donc, les propos embarrassés de Trump, les voici. Nous étions d'accord sur de nombreux points, la plupart. Quelques points importants ne sont pas encore tout à fait résolus, mais nous avons progressé. Il n'y aura donc pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il n'y aura donc pas d'accord tant qu'il n'y aura pas d'accord. Waouh. Ok. Je contacterai l'OTAN dans quelques instants, blablabla, 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 blablabla. Je contacterai les différentes personnes que je jugerai compétentes et bien sûr le président Zelensky. Ah, quand même ! Pour lui parler de la réunion d'aujourd'hui, c'est à eux de décider. Parce que c'était quand même un sommet où le président Zelensky n'était pas invité. Quoi. Cet échec, s'il se confirme, est en creux un soulagement pour les Ukrainiens et les Européens. Parce que les Ukrainiens et les Européens craignaient bien pire. Craignaient que les États-Unis lâchent totalement l'Ukraine sur l'autel d'un cessez-le-feu, d'un accord de paix. Voilà, et c'est, a priori, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ne sont pas mis, les Ukrainiens et les Européens, devant le fait accompli, sommet d'accepter en l'échange d'un cessez-le-feu des concessions territoriales, c'était l'une des inquiétudes, voire une finlandisation de l'Ukraine assortie de vagues garanties de sécurité. De facto, les Européens reviennent dans le jeu, Trump n'ayant pas réussi à débloquer seul le dossier. Trump aurait voulu régler ça tout seul. Hein. Voilà. Il vient de faire le constat qu'il n'y arrivait pas. Et si les Européens s'invitent aujourd'hui à la Maison-Blanche en même temps que Zelensky, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas à Washington sans l'accord de Trump. Quelque part, Trump vient de dire les Européens, mouillez-vous, venez m'aider parce que je n'y arrive pas tout seul. Voilà. Il ne le dit pas officiellement, mais c'est ce qui vient de se passer. Bon, je vous passe sur les éléments de langage de Poutine. Je sais que vous n'êtes pas dupes. Il y a quand même un moment où Poutine, dans sa déclaration, a dit « Nous avons toujours considéré le peuple ukrainien comme un frère. » Je vous passe ces éléments de langage. Le sommet en Alaska, disait Le Monde, c'est ce que je vous disais à l'instant, a donné à Poutine une occasion de parader sur le sol américain sans risquer d'être arrêté en vertu du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qu'il a inculpé pour crime de guerre, car les États-Unis n'en font pas partie. Je vous lis pas tout l'article, je vous lis l'essentiel. Voilà, le fin de l'article revient sur le déroulé de ce sommet. Avant tout, je vais à la conclusion de l'article de Marie Jégot et d'Arnaud Parmentier. Avant tout, Vladimir Poutine a gagné la guerre de l'information. Il a utilisé Trump pour montrer qu'il n'était pas isolé, a estimé le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement ukrainien. Une chose est sûre, Donald Trump admire toujours autant de Vladimir Poutine qu'il a décrit sur Fox News après la rencontre comme un homme fort, dur comme l'acier. Excluant de nouvelles sanctions contre la Russie, le président américain a estimé que le but est toujours la paix, jugeant avoir fait sa part, incapable de contraindre la partie russe, je pense que c'était son objectif. Il s'est défaussé sur l'Ukraine et ses alliés européens, c'est ce que je vous disais finalement un peu plus tôt. Maintenant, ça dépend vraiment du président Zelensky pour y parvenir. Et je dirais également des États européens, ils doivent s'impliquer un petit peu. Mon analyse, qui ne vaut que pas grand-chose, hein. Moi je ne suis qu'un petit journaliste et pas un spécialiste des questions internationales, c'est que Trump rêvait d'imposer la paix à Poutine, voilà, et d'apparaître aux yeux du monde entier comme celui qui avait amené la paix dans la région. Il n'a pas réussi et maintenant il dit aux Européens, bon les gars, trouvez-moi une solution, quoi. Je vous lis maintenant. Merci Casus Mile. Merci pour le soutien. Merci VB Fox. Merci pour le 18e mois. Merci Glow. Merci pour le Prime. Merci Finderbing. Merci Cindy du 31. Merci No Freedom. Je vous lis. Rencontre d'ego, dit Léa Rose. Oui, bien sûr. Pour partie, ouais. Un aveu de faiblesse de Trump. Atlanta, moi, je le vois comme ça, ouais. Trump qui en appelle aux Européens, alors que Trump, en général, fait assez peu de cas des Européens, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Ouais. Le risque, c'est que les Européens se retrouvent tout seuls dans cette affaire. Bah, Trump, il fonctionne un petit peu au feeling. Donc, s'il veut arrêter le soutien à l'Ukraine en disant « débrouillez-vous les Européens », il le fera, hein. Merci Romuald. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup au Proche-Orient et qui me bombardent de questions sur la Palestine pendant un sujet sur l'Ukraine, sachez que dans quelques minutes, on parlera, comme on le fait tous les jours, ici, du Proche-Orient, de la Palestine et d'Israël. Je vous lis. Hein. Salut Drake. Mais alors, quelle était l'intention de Poutine en allant rencontrer Trump? Bah, peut-être de persuader que celui qui pouvait vraiment installer la paix dans la région, c'était lui, Poutine. Voilà. Aux conditions russes. Hein? Aux conditions russes, c'est-à-dire en minimum l'Ukraine reconnaissant que les territoires concédés militairement soient définitivement russes. Voire des portions du territoire supplémentaires, en obtenant de l'Ukraine qu'elle abandonne totalement tout projet de rejoindre l'OTAN. Enfin, Poutine est peut-être allé en Alaska en disant je vais rouler Trump dans la farine, on va se mettre d'accord sur un accord de paix, mais un accord de paix à mes conditions, quoi. Et a priori, Trump ne les a pas acceptés. Je dis bien a priori. On en saura peut-être dans les prochains jours. Voilà. Un article encore dans Le Monde sur, puisque j'en ai déjà parlé ce matin, merci PLN Olvi, merci pour le 19e mois. Merci Kiki Kiwi, merci Hortax, merci Nart, vous êtes incroyable. Merci Nora, merci Nour Freedom, merci Cindy. Le rêve, Le Monde dit l'obsession de Trump d'obtenir le prix Nobel de la paix. Voilà, sans doute parce qu'Obama l'a obtenu aussi dans le passé. Et Le Monde nous explique que la candidature du président américain est soutenu par plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Tiens donc. Alors lisons cet article sur l'obsession trumpienne d'obtenir le prix Nobel de la paix. Le locataire de la Maison Blanche se rêve en futur lauréat du prix Nobel de la paix. Voilà. Ils ne me le décerneront jamais, avait-il déclaré le 4 février lors d'une rencontre avec Netanyahou, le Premier ministre israélien. C'est dommage, je le mérite. Ce mec est génial quand même. Mais ils ne me le décerneront jamais, des propos qu'ils ne cessent de répéter. Bon, déjà un gars qui affirme publiquement, c'est une chose d'en rêver la nuit ou le matin en se rasant, mais un mec qui dit publiquement « je mérite le prix Nobel de la paix », c'est quand même quelque chose, quoi. Depuis son premier mandat, Trump se décrit comme un homme de paix. Dans une Amérique saignée par la guerre en Afghanistan et en Irak, il avait insisté sur le fait d'être le premier président à ne pas avoir déployé de soldats américains dans un conflit hors des États-Unis depuis Jimmy Carter, ce qui était exact. D'ailleurs, quand dans le chat des gens un peu pro-Trump se manifestent, c'est un truc que je lis à chaque fois ça. Oui, mais au moins Trump, lui, il n'a pas déployé de soldats américains dans un conflit hors des États-Unis depuis, contrairement à ses prédécesseurs. Ce qui est une vraie info. Et ça, c'est vraiment un des arguments trumpistes par excellence. D'ailleurs, souvent, je le lis dans le chat. On me dit, oui, qu'est-ce que tu as contre Trump? Lui, au moins, il n'a pas envoyé de soldats américains à l'extérieur. Lui, au moins, il n'a pas déclenché de guerre. Ça, c'est un truc assez constant. Depuis janvier et son retour à la Maison Blanche, il répète que la guerre en Ukraine, et c'est son argument d'ailleurs aussi, pour obtenir le prix Nobel de la paix. Depuis janvier et son retour à la Maison Blanche, il répète que la guerre en Ukraine, qualifiée de guerre de Biden, son prédécesseur, et l'attaque terroriste du Hamas en octobre 2023 en Israël n'aurait jamais eu lieu s'il avait été président. Il est très fort, Trump. Voilà. Si Trump avait été président, à la place de Biden, il n'y aurait pas eu les attentats du Hamas, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. De la même manière, il a dit qu'une fois qu'il serait élu, il réglerait la guerre en Ukraine en 24 heures. Et ça fait déjà plusieurs mois que ces 24 heures durent. C'est Trump, quoi. Le second mandat est celui d'une campagne en faveur du prix Nobel. Pourtant, Trump l'a entamé en menaçant d'annexer le Groenland. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et de prendre le contrôle du canal de Panama sans exclure le recours à la force. Il a coupé l'aide à l'Afrique en démantelant l'Agence américaine pour le développement international, ce qui, selon l'accusation de Bill Gates, va entraîner la mort d'enfants parmi les plus pauvres du monde. Il a aussi expulsé des migrants sans respecter les injonctions de juges et sape l'état de droit dans son pays, mais en parallèle, il ne cesse de mettre en scène les accords de paix qu'il parviendrait à sceller. Par exemple, le 20 juin, sur son réseau social Truth Social, il annonce un magnifique traité, c'est un mot qu'il aime beaucoup, magnifique, entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Voilà. Grand jour pour l'Afrique, franchement, grand jour pour le monde, et de se plaindre par avance, je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix pour cela, je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix pour avoir arrêté la guerre entre l'Inde et le Pakistan, je n'obtiendrai pas le prix Nobel de la paix pour avoir maintenu la paix entre l'Égypte et l'Éthiopie, je n'obtiendrai pas le prix Nobel de la paix pour avoir conclu les accords d'Abraham au Moyen-Orient. Non, je n'obtiendrai pas de prix Nobel de la paix, quoi que je fasse, y compris la Russie, l'Ukraine, Israël, l'Iran, quels que soient les résultats, mais les gens le savent, c'est tout ce qui compte pour moi. C'est fou ça. En fait, si Trump avait été. Oui, c'est Gandhi, oui, Juroskov a raison. Si Trump avait été président des États-Unis depuis, depuis la guerre de sécession, il n'y aurait jamais eu de guerre dans le monde. Et ça, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. C'est fou ça. Aveugle que nous sommes. Aveugle que nous sommes. Dans ces succès dont se prévaut Trump, tous ne lui sont pas reconnus. L'Inde, furieuse des positions jugées trop conciliantes vis-à-vis du Pakistan, nie toute médiation. Aucun dirigeant mondial nous a demandé d'arrêter l'opération, a déclaré en juillet le Premier ministre indien. Sur le Rwanda et la RDC, la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, groupe rebelle Hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais, est en attente, 50 jours après l'accord. Les déclarations de Trump sur le Nil ont surtout agacé en Éthiopie. Le cessez-le-feu proclamé dans l'attaque de l'Iran par Israël a été annoncé parce que la base trumpiste était furieuse du retour des États-Unis dans la guerre. Donc le monde dit que la plupart des accords de paix proclamés comme tels par Trump n'en sont pas vraiment. Je viens d'arriver, c'est du sarcasme, rassurez-moi. Oui, mon ami, c'est du sarcasme. On troll un peu aussi, un petit peu ici, pour se détendre la tête des mauvaises nouvelles de l'actualité. Alors, le monde semble nous dire que Trump ne mérite pas vraiment ce prix Nobel de la paix. Il n'empêche, écrit le journal, de nombreux dirigeants internationaux, eux, jouent le jeu de Trump. Netanyahou a proposé la nomination du président américain au comité Nobel, tout comme le Pakistan, beaucoup plus satisfait que l'Inde, qui a annoncé avoir présenté le 21 juin sa candidature en saluant sa médiation. Donc le Pakistan estime que Trump devrait avoir le Nobel. Netanyahou, le Premier ministre israélien, estime que Trump devrait avoir le Nobel. Voilà, le Premier ministre arménien estime que Trump devrait avoir le Nobel. Le Premier ministre cambodgien, voilà, estime, déclaration en août, que Trump devrait avoir le Nobel. Voilà. Alors, le monde rappelle que plusieurs présidents américains ont eu le prix Nobel de la paix. Hein. Mais tous démocrates ou progressistes. Pas de républicain, a priori. Roosevelt, en 1906, pour avoir scellé la paix entre le Japon et la Russie. Wilson, 1919, pour son rôle dans la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Jimmy Carter, après les accords de Camp David de 1978, à une époque où on rêvait d'une paix au Proche-Orient, parce que cette époque a existé. Voilà. Avant que les tenants de la haine et de la guerre dans les deux camps ne l'emportent. Barack Obama, 2009, pourquoi d'ailleurs ? Pour ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples. Décision qui a été jugée par beaucoup prématurée. Voilà. Souvent, dans le chat, je lis des critiques sur ce prix Nobel de la paix reçu par Obama, et Le Monde, effectivement, explique que beaucoup ont jugé ce prix Nobel de la paix pour Obama prématuré. Voilà. Trump, lui, en garde une rancœur inextinguible, comme on atteste ses déclarations. Si je m'appelais Obama, j'aurais reçu le prix Nobel en 10 secondes. Voilà, Obama a reçu un prix Nobel, donc Trump nous dit que lui aussi devrait recevoir. Ok, intéressant. Je vous lis, on enchaîne. Défécateur nous dit, notre ami Défécateur, que Reuters, l'agence de presse britannique, a rapporté le 14 août que Trump a profité de son appel au ministre des Finances norvégien sur les droits de douane pour lui parler de prix Nobel de la paix, sans doute pour qu'il tente de faire pression sur le comité. Échange de droits de douane en baisse contre un soutien au prix Nobel de la paix. Waouh ! On est à la limite de l'abus de biens sociaux, là. Si les États-Unis étaient une entreprise. Alors j'allais dire chantage, poum, parle même de méthode de mafieux, quoi. Ouais, trafic d'influence, oui, t'as raison, c'est plutôt ça, Pierre. Plutôt trafic d'influence, d'ailleurs, tu as raison. Monétisation du prix Nobel, ouais, tout à fait. Écoute-moi, le journaliste, arrête de parler. La France, elle est en guerre, oui ou non? Merci Rifton pour ton intervention assez intéressante dans le chat. Merci beaucoup. Ok, donc, on a parlé de ce dossier du Monde qui revient sur ce sommet qui n'a pas débouché sur grand-chose sur l'Ukraine. Et maintenant, deuxième étape. Voilà. Sur ce qui va se passer avec Zelensky, et c'est notamment l'article de Lacroix qui nous l'explique ce matin. Donc, au tour maintenant de Zelensky d'être reçu par Trump. Ça va se passer aujourd'hui. On aura peut-être des infos demain. Voilà, si ça se passe pas trop tard avec le décalage horaire, demain dans les journaux du matin. On se rappelle de la réception précédente de Zelensky, le président ukrainien à Washington. Ça s'est très très mal passé pour lui. Il avait été, comment dire, bah l'article va le rappeler d'ailleurs, mais il avait été, comment qualifier la manière dont Trump l'avait traité? Il a montré du doigt comme responsable de cette guerre. Oui, humilié, vous avez raison. Il avait été humilié par Trump, exactement. Mais sauf que cette fois, il n'est pas tout seul, il est accompagné par les Européens, ce qui est assez incroyable. Parce que à aucun moment, on peut imaginer que Zelensky soit reçu à la Maison-Blanche accompagné des Européens, notamment la présidente de la Commission européenne que vous voyez ici, Ursula von der Leyen, et le président Macron doit en être aussi, et d'autres, sans l'accord de Trump. C'est incroyable. Lisons cet article, on va comprendre ce qui devrait se passer aujourd'hui. Le président ukrainien donc se rend aujourd'hui à Washington, 3 jours après la rencontre de Trump avec Poutine en Alaska. Mais à la différence de son entrevue catastrophique de février dernier, il sera cette fois-ci accompagné de plusieurs leaders européens, dont Emmanuel Macron, le président français, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Merci Space Saturn, merci beaucoup. Merci Ilac, merci Masse la menace, merci Deblin. Beaucoup craignaient un désastre, et c'est finalement au soulagement de nombreux Ukrainiens que la rencontre entre Trump et Poutine n'a pas donné lieu à un deal en faveur de Moscou, puisque c'était l'une des craintes. Mais en apprenant dans la foulée que Zelensky était attendu ce lundi à la Maison-Blanche, ses compatriotes ont eu soudain une nouvelle raison de se ronger les seins. Car à Kiev et dans tout le pays, personne n'a oublié la désastreuse entrevue du 28 février dernier entre le président ukrainien et Donald Trump à la Maison-Blanche. On a tous ces images en tête, hein. Moqué pour sa tenue, Patricia me le rappelait dans le chat, c'était horrible à regarder ses remarques sur sa tenue, Trump indigne comme président. Moqué pour sa tenue. Houspillé pour ses demandes de garantie de sécurité, Zelensky avait dû mettre un terme prématuré à sa visite officielle après que l'Américain lui a dit qu'il n'avait pas les cartes en main. 6 mois plus tard, alors que Trump vient d'applaudir et dérouler le tapis rouge à Poutine, plus d'un Ukrainien anticipe avec inquiétude cette dangereuse répétition. Merci Yann Malcolm, bonne journée à toi. Les Européens ont trouvé une solution, ne pas laisser Zelensky entrer seul dans le bureau ovale, alors ça c'est nouveau. Ce lundi, c'est donc un véritable pacte de dirigeants de l'Europe qui entrera à la Maison-Blanche pour un face-à-face sans précédent. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi Trump a accepté ça. Lui qui aime être en position de force vis-à-vis de ses interlocuteurs, pourquoi a-t-il accepté que les Européens soient aux côtés de Zelensky? Il y a un truc. Est-ce qu'il a besoin des Européens aujourd'hui pour obtenir la paix en Ukraine? C'est assez. Mais bon, je pense qu'on va comprendre en lisant l'article. Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice ici, souvent je pose plus de questions que je n'apporte de réponses. Il y a ceux qui savent et qui savent tout sur tout, mais moi je préfère être dans le camp de ceux qui s'interrogent, parfois se remettent en question, parfois ne sont pas sûrs, vérifient, parfois j'émets une opinion, mais là par exemple je me pose une vraie question. Ce lundi c'est donc un véritable pacte de dirigeants européens qui entrera à la Maison Blanche, face à face sans précédent, moi ça ne me rappelle rien. C'est eux qui se sont invités, Banzai. Ah bah oui, bien sûr! Ah ben, Trump, c'est tout à fait quelqu'un qui. D'ailleurs, Bonsaï, toi, demain, tu t'invites à la Maison Blanche, mais tu rentres, mais comme ça. Hein. Allô, Donald, c'est Bonsaï. Je m'invite. J'arrive. Pas de problème? Tu n'es pas d'accord? J'arrive. 14h. Chouchou, ça marche pas comme ça. Tu crois que le chef de la première puissance économique et militaire au monde accepte qu'on s'invite à la Maison Blanche comme ça? Ben. Bordel. Mais non, il s'invite pas. Donc c'est validé par Trump, et c'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est surprenant. Donc, parmi eux, y a qui ? Le président français, Macron, le chancelier allemand, Friedrich Merz, okay. La présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, le premier ministre britannique, Keir Starmer, le président finlandais, Alexander Stubb, il y a du monde. Hein. Tous ont déjà rencontré Trump à la Maison Blanche. Ils seront accompagnés par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et ses notables de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans leur communication officielle, une partie des Européens semble avoir pris acte du fait que le président américain entend désormais enjamber l'étape du cessez-le-feu préalable à la paix auquel il tenait tant. Convaincre Trump de réaligner sa position sur la leur risque de nécessiter de pénibles efforts. Alors, passer directement à un accord global comme le souhaite le président américain, c'est-à-dire voilà, directement la paix, c'est pas le cessez-le-feu puis la paix, c'est directement la paix et un cessez-le-feu en même temps. Très difficile, mais peut-être jouable, juge-t-on finalement à Paris. Car Trump veut aller vite. Selon le Wall Street Journal, le président américain souhaiterait une réunion tripartite avec l'Ukraine et la Russie d'ici à la fin de la semaine prochaine. Dimanche, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a menacé la Russie de sanctions si un accord sur l'Ukraine n'était pas conclu. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Trump, mais là, sans anticiper sur le résultat de tout ce qui va sortir de là, on peut considérer quand même qu'il est très proactif sur l'Ukraine, quoi. En visite à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a cependant réaffirmé que négocier sous la pression des armes n'était pas possible. Nous avons besoin de véritables négociations, ce qui signifie qu'elles peuvent commencer là où se trouve actuellement la ligne de front. Façon d'évacuer l'exigence formulée par la Russie d'une évacuation par les troupes ukrainiennes de la région de Donetsk, dont Kiev contrôle encore un tiers. À ses côtés, Ursula von der Leyen a rappelé l'importance de l'intégralité territoriale de l'Ukraine. Mais pour les Ukrainiens et les Européens, il importe surtout que la question des territoires soit liée à celle des garanties de sécurité. L'une des solutions serait de ne pas intégrer Kiev dans l'OTAN, hein, qui est quelque chose qui est souhaité par l'Ukraine, voilà, et qui est catégoriquement refusé par la Russie de Poutine, mais à lui offrir un type de protection similaire en cas d'agression. Dimanche après-midi, les Européens sont à nouveau réunis en visioconférence afin de débattre de leurs options et aligner leurs vues. Il importera d'entrer soudé lundi dans l'arène du bureau ovale. C'est intéressant. D'ailleurs, c'est marrant, mais l'article ne répond pas à cette question. Pourquoi Trump accepte que les Européens accompagnent Zelensky ? Moi, je suppose, mais ce n'est pas une info, que c'est parce qu'il pense avoir besoin des Européens pour parvenir à imposer la paix dans la région. Pourquoi Poutine est contre que Kiev soit dans l'OTAN ? Parce que pour Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. Ou bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a déclenché cette guerre. D'ailleurs, c'est pas une guerre pour lui, c'est une libération de l'Ukraine. Bon, les Ukrainiens sont pas tout à fait d'accord. D'où la résistance ukrainienne depuis le début de ce conflit. L'opération spéciale, qui devait durer 48 heures. Non, Salencita, je ne suis pas sur l'historique. Oh, j'ai passé le cap. Alors, voilà. Alors certains dans le chat reprennent les éléments de langage de Poutine, qui est en fait, si l'Ukraine avait rejoint l'OTAN, ça aurait sans doute provoqué une guerre mondiale, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, parce que l'Ukraine aura attaqué la Russie ou l'OTAN aura attaqué la Russie. Bref, ça c'est un des éléments de langage de Poutine, effectivement. C'est insupportable que l'Ukraine rejoigne l'OTAN parce que c'est une menace contre le territoire russe. Voilà. Donc à supposer que l'Ukraine ait des projets d'invasion de la Russie ou l'OTAN, projet d'invasion de la Russie. Et ça c'est les éléments de langage de Poutine. Vous pouvez les mettre dans le chat, ça ne me dérange pas, mais c'est le cas. T'inquiète, Sugar, tout va bien. Alors, d'autres articles sur le sujet ce matin, sur le même sujet, c'est Libération qui consacre sa une entièrement à ça. Merci Rifton, bonne journée, à bientôt, tu reviendras. Avec l'Ukraine, l'Europe à bloc, c'est la une de Libé. 3 jours après la rencontre entre Trump et Poutine, les dirigeants européens, plus vigilants que jamais, serrent les rangs autour de Zelensky, invité ce lundi à la Maison Blanche. Qu'en pense Alexandra Schwarzbrod dans son édito? Voilà. Un édito, c'est un article où un journaliste donne son avis. Joli coup pour qui, je ne sais pas. Joli coup, ils seront tous là au presque. Les dirigeants européens ont bien compris l'importance du rendez-vous qui va se tenir ce lundi à la Maison Blanche entre Trump et Zelensky. Et cette fois, pas question de prendre le risque que le président ukrainien se fasse publiquement humilier comme ça avait été le cas le 28 février. Ils entendent bien faire bloc, montrer que l'Europe est unie et qu'elle ne permettra pas que l'Ukraine se laisse dépecer par l'ours russe et l'aigle américain. Démonstration de force inédite. Qui en dit long sur la fragilité de Trump sur le dossier ukrainien? Donc on en est sur l'analyse que je proposais, à savoir que comme Trump n'a pas réussi seul à imposer la paix dans la région, il semble avoir besoin de l'aide des Européens. Après avoir fanfaronné en affirmant qu'il allait régler le problème en tête-à-tête avec Poutine, les Européens à la niche, le président américain est sorti bredouille de cette rencontre en Alaska, qui a fini par tourner à l'avantage de son homologue russe. Bon, ce dont beaucoup se doutaient avant même cette rencontre. Deux images vont rester de cette rencontre. Trump applaudissant toute honte bu l'arrivée de celui qui a été mis au banc de la communauté internationale pour ses exactions en Ukraine. Et Poutine faisant le geste qu'il n'entend rien quand une journaliste lui demande quand il compte d'arrêter de tuer des civils. Le maître du Kremlin n'entend rien en effet. Il ne souhaite qu'une capitulation de l'Ukraine, comme l'a rappelé dimanche le président Macron. Et Trump a beau faire mine de tenir le début d'un accord de paix, on n'en est plus que loin. Et peut-être, analyse de Libé, que le président américain commence à en prendre conscience. Je vous lis dans le chat, hein. Je finis l'édito et après je vois que ça provoque beaucoup de réactions, je vous lis un petit peu. Cette histoire de cessez-le-feu qui ne pourrait avoir lieu avant un accord de paix n'a aucun sens. C'est une manœuvre dilatoire du président russe Trump dans son obsession folle du Nobel de la paix, décidément, serait prêt à accepter si les Européens ne faisaient contrepoids. Quels seraient les concours de ce pseudo-accord de paix? Quelle garantie de sécurité pour l'Ukraine? Le chantier reste énorme. Il est urgent de le baliser, de le sécuriser. La démonstration de force des dirigeants européens au corps de l'été est un joli coup. Ok. Qui va placer Trump face à ses manquements, mais il va falloir bien mieux qu'un joli coup. Okay. Joli coup de l'Europe, selon Alexandra Schwarzbrod. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Je l'avais dit que je vous lisais. Que je vous lirai, je vous lis. Oui, ton pote Lilian, c'est l'analyse de certains médias ce matin. Pourquoi Trump insiste autant sur la rapidité de faire la paix, me demandes-tu? Bien sûr, le plus tôt de la paix est le mieux, tu as raison. Mais y a-t-il pas une autre raison derrière? Prix Nobel de la paix, c'est ce que semblent dire les médias, ouais. Merci Manours, à bientôt. Oui, j'ai vu Nico, mais franchement, si je prends des sanctions contre tous les propos problématiques, on va y passer la journée. Salut Noctali. Jules, pour répondre à ta question, le Figaro propose un dossier sur ce sujet ce matin et que c'est exactement la même analyse. N'hésite pas à lire le Figaro. Ah oui, j'ai vu ça. Ah oui, c'est juste du spam. Non, c'est juste du spam. Voilà. C'est fait. Jules, je t'ai déjà répondu sur les journaux de droite, donc je répète, l'analyse du Figaro est la même. Mais là, tu viens de spammer, alors j'ai répondu à ta question. C'est bien de spammer, mais à un moment, il faut écouter aussi. Alors ça aussi, ça, hop, ça dégage. Effectivement, j'avais pas vu, mais il y a des petits spammeurs qui nous parlent d'autres sujets, là, qui n'ont rien à voir. Oui, on essaie tous les matins, Drago. C'est, je m'en suis occupé. Ah, pourquoi ça marche pas, Sugar? Comment ça se fait? Étrange, d'accord. Bon, les modos sur le chat TikTok ont été privés de leurs droits ce matin, il y a un petit bug de l'appli. Merci Drago. Voilà, je serai juste absent en fin de semaine, en début de semaine prochaine, parce que j'ai une semaine de tournage de questions pour un champion, mais ce sera exceptionnel. Merci Kentucky Fried Brain, joli pseudo. Non, mais Nico, j'avais pas vu. Simonovic nous dit, j'ai de plus en plus l'impression que la seule solution serait que l'Europe mette un grand coup d'accélérateur du point de vue militaire, car la Russie galère contre l'Ukraine, rien la ferait tomber. Alors, sur le front militaire, le front se déplace, mais en faveur de la Russie. Hein. Très lentement, très doucement, mètre par mètre, au prix de pertes humaines très importantes pour la Russie. Mais si militairement l'un des deux camps avance au détriment de l'autre, c'est l'armée russe au détriment de l'armée ukrainienne, qui est extrêmement affaiblie, quoi. Après, si Poutine avait les moyens d'aller plus vite et d'envahir totalement l'Ukraine, comme c'était le projet initial, il le ferait aussi, quoi. Mais je ne pense pas que l'objectif des pays occidentaux, contrairement à certains, soit de faire tomber la Russie, comme tu le dis, quoi. Je vous lis. Hein. Pardon, je vois beaucoup de messages très pertinents. Je ne peux pas répondre à tous, mais c'est. Alors, bon, là, on a un article sur la manière dont Zelensky a préparé ce match retour. Voilà. Ce sera très intéressant. Donc, on m'a dit que c'était en heure française. Alors, est-ce que c'est heure française ou heure américaine? Zelensky et les Européens reçus par Trump à la Maison-Blanche. Quelqu'un me parlait de 18h tout à l'heure. Est-ce que vous parliez d'heure française ou d'heure américaine? Heure française, ça veut dire qu'on pourra avoir le résultat peut-être ce soir dans les JT. 19h heure française? Ok. Alors la bonne nouvelle, ça veut dire que ce sera dans les journaux demain matin. Bon, alors que va-t-il ressortir de ce dossier, de ce sommet? Eh ben, on l'aura demain matin dans les journaux puisqu'ils auront le temps d'analyser ce qui s'est passé. Ok. Salut, ça m'amuse que tu as entendu parler de documents confidentiels oubliés par les Américains lors du rendez-vous avec Poutine, source Le Parisien. J'ai vu le chat me parler de ça, ouais, des documents oubliés, ouais. Je vais regarder ça. Excusez-moi, les modérateurs sont en panne technique sur TikTok, donc du coup c'est moi qui suis m'en occuper, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Bon, c'est intéressant, en tout cas on a posé un cadre qui va nous permettre de comprendre ce qui va se passer dans les prochaines heures à Washington. Donc. Article dans Le Monde sur le sujet, article, dossier et une de Libération sur le sujet, et puis, comme tous les jours quasiment, l'actualité du Proche-Orient également. Ah, effectivement, les modos ne peuvent pas travailler sur TikTok, c'est très intéressant. Sur le Proche-Orient. Et on en parle quasiment tous les jours. Voilà. Si vous voulez savoir ce qu'on dit ici du Proche-Orient, de la Palestine et d'Israël, et ne pas avoir à se répéter tous les matins depuis 5 ans, il faut quelque part aller consommer tous les lives que nous avons consacrés sur le sujet ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années. Mais pour ce qui est de l'actualité de ce matin, c'est un article dans Le Monde qui est ici sur ce projet de colonie. De colonie illégale, hein, puisque ça fait des années que la communauté internationale dénonce la colonisation illégale des territoires palestiniens par des colons juifs. Voilà. Ce nouveau projet de colonie, donc émanant d'Israël, émanant précisément de l'extrême droite israélienne, pour morceler la Cisjordanie, pour couper la Cisjordanie en deux, voilà, et donc empêcher toute réalisation un jour d'un État palestinien qui est la condition sine qua non de la paix un jour dans la région. Vincent Sizem, merci pour le 31e mois. Merci Space Saturn. Merci Sabnana, merci Cocolito. L'extrême droite israélienne voit dans ce plan un coup de grâce contre la possibilité d'un État palestinien. Bon, pardon, les spammers, c'est pour moi aussi alors. C'est incroyable ça. Lisons l'article. C'est marrant parce qu'en fait, ici on essaye de comprendre l'actualité et certains minoritaires mais très bruyants se servent de ce chat, non pas pour essayer de comprendre l'actualité et pour échanger avec les autres, mais juste pour spammer. Non seulement affirmer leurs convictions et leurs analyses, mais les spammer. Voilà. C'est un comportement très étonnant. Voilà. On n'est pas du tout dans un comportement pour échanger avec les autres, on est dans un comportement de militant, voilà, de militant assuré d'avoir raison contre tous les autres. Et c'est toujours très inquiétant, ce genre de comportement. Voilà, comportement minoritaire, mais forcément extrêmement bruyant. Un coup de grâce porté à l'idée d'un État palestinien. Le ministre des Finances israélien, qui est un ministre d'extrême droite, membre de l'extrême droite nationaliste et religieuse, n'a pas dissimulé sa satisfaction et ses intentions jeudi dernier en annonçant la décision de valider ce projet de développement d'une colonie juive stratégique à l'est de Jérusalem, en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, rappelle Le Monde, de façon illégale depuis 1967. On veut juste connaître ta position, Samuel, et pas l'opinion du journal Le Monde. Le Château, tu peux t'en aller, puisque je ne suis pas un militant. Ce que certains d'entre vous êtes. Vous, vous êtes là pour proclamer vos idées à la face du monde. Voilà. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Je suis journaliste depuis 30 ans. Je ne suis pas un militant. J'ai beaucoup de respect pour les militants, d'ailleurs, qui essaient de faire bouger les choses sur tel ou tel sujet. Mais ce n'est pas ce que je fais. Voilà. Donc, si tu veux des propos militants, il y a plein d'endroits pour ça. Mais si c'est ce que tu veux ici, même si les habitués de cette chaîne savent très bien ce que je pense de ce conflit, puisque je l'explique tous les jours, mais de façon pas raccourcie et condensée comme le peut faire un militant, si tu veux ça, n'hésite pas à aller voir ailleurs si j'y suis. Voilà, y a sûrement des gens qui le font sur Twitch. Mais je ne sais pas où, mais tu trouveras sûrement. Mais ça n'est pas ce qu'on fait ici. Donc, revenons à la lecture du Monde. La conséquence de cette annonce, si elle devait se réaliser, est majeure. Avec cette colonie de 3000 logements, connue sous le nom de code E1, située sur la ville de Mahale Adumim, la Cisjordanie déjà morcelée se trouverait coupée en deux, et la perspective de création d'un État palestinien viable serait presque impossible. L'une des convictions ici de votre serviteur, c'est que la condition sine qua non du retour de la paix un jour dans la région, c'est la création d'un État palestinien, où le peuple palestinien pourrait vivre à l'abri, en sécurité, à l'abri des frontières, aux côtés d'un État israélien, où le peuple israélien vivrait d'eux-mêmes. La construction coloniale dans la zone E1 est une continuation des plans d'occupation visant à anéantir toute possibilité de réaliser l'État palestinien sur son territoire, a réagi l'autorité palestinienne, c'est extrêmement clair. L'ONG israélienne La Paix Maintenant, puisqu'il y a aussi des gens en Israël qui militent pour la paix, a dénoncé pour sa part un plan qualifié de fatal pour l'avenir d'Israël et pour toute chance d'une solution à deux États, puisqu'il y a aussi des gens en Israël qui militent pour la création d'un État palestinien. Il n'y a pas que le gouvernement Netanyahou. Le projet E1 est dans les cartons depuis plus de 20 ans. C'est un vieux projet. Mais les pressions internationales, notamment américaines, l'ont gelé à plusieurs reprises. Des recours juridiques sont encore possibles, des blocages politiques aussi. Netanyahou, pour l'instant, n'a pas répondu à cette annonce de son ministre d'extrême droite. Cependant, celui-ci, M. Smotrich, sait qu'il dispose d'un moyen de pression rendant l'invalidation du projet peu probable à court terme, après avoir perdu un arbitrage sur sa demande d'annexion de Gaza, parce que la même personne voulait que, souhaitait très fort qu'Israël annexe Gaza. Merci Judas HS pour le soutien. Le leader de l'extrême droite avait publiquement évoqué samedi dernier sa perte de confiance. Non, samedi 9 août, c'était plus ancien. Sa perte de confiance dans le chef du gouvernement, Netanyahou, donc, et fait agiter la menace de démission. Or, Netanyahou, il a besoin du soutien de l'extrême droite israélienne pour que son gouvernement ne chute pas. Hein, et en cas de départ de ce monsieur, son gouvernement pourrait chuter et Netanyahou pourrait perdre le pouvoir, évidemment, ce qu'il ne souhaite pas. 5 jours plus tard, Netanyahou sait qu'un refus de valider le projet de colonie ferait probablement tomber son gouvernement, c'est ce que je vous disais à l'instant, ce qu'il cherche à tout prix à éviter depuis des mois, quitte à prolonger une guerre dévastatrice à Gaza. Ce projet de colonie juive pour couper en deux la Cisjordanie n'a rien à voir, nous explique Le Monde, avec la riposte au massacre du 7 octobre 2023, même si le choc initial de l'attaque terroriste du Hamas a créé des conditions jugées favorables par la droite et l'extrême droite pour avancer sur ces sujets. Il présente l'intérêt pour les partis au pouvoir de répliquer aux annonces de reconnaissance imminente de la Palestine par plusieurs pays, dont la France, l'Australie, le Canada, j'ajoute la Grande-Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Quiconque tente aujourd'hui d'obtenir la reconnaissance internationale d'un État palestinien recevra une réponse de notre part sur le terrain, dit le ministre israélien d'extrême droite, pas dans les documents, pas dans les décisions, pas dans les déclarations, mais dans les faits, des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie. Le souhait de l'extrême droite israélienne, c'est que la présence de colons juifs en Cisjordanie, il en rêve même à Gaza, empêche un jour la création d'un État palestinien. Dans l'ombre de la guerre à Gaza, le gouvernement le plus radical de l'histoire du pays n'a cessé de pousser tous ses projets de colonisation, chargé du développement des colonies. Ce ministre, d'ailleurs, Smotrich, avait fait adopter à la fin du mois de mai la construction et la légalisation de 22 nouvelles colonies. En complément, le gouvernement avait débloqué des fonds et facilité la construction de dizaines de milliers de logements pour des familles juives depuis 2 ans en record. Ce gouvernement Netanyahou, il accompagne financièrement, voilà, et il encourage, et il soutient ces colonies juives en Cisjordanie. Oui, quelqu'un me dit 700 000 Israéliens juifs en Cisjordanie. Oui, le Moussaillon, tu viens de voir le chiffre, tu as raison. On estime, le chiffre est énorme, que près de 700 000 Israéliens juifs vivent aujourd'hui dans les territoires occupés, dont Jérusalem-Est. De son côté, Itamar Ben-Gvir, autre pilier suprémaciste du gouvernement Netanyahou, a profité du choc du 7 octobre pour armer massivement les colons. Le nombre de permis d'armes a doublé, avec 165 000 titulaires supplémentaires depuis 2023. Dans le même temps, sans surprise, et c'est quelque chose qui est documenté, les violences commises par les colons contre les Palestiniens en Cisjordanie ont explosé. Voilà. Avec une relative indifférence de l'armée israélienne à ce propos, quoi. Dans le même temps, sans surprise, voilà, ça je le disais à l'instant, Smotrich profite d'un relatif consensus dans la société israélienne, ou du moins d'une large indifférence pour le sort des Palestiniens de Cisjordanie. Les derniers sondages montrent que la solution à deux États, que continuent de préconiser les diplomates européens, est largement rejetée. Au moment des annonces françaises, australiennes et anglaises sur la reconnaissance de la Palestine, fin juillet, les dirigeants israéliens, y compris l'opposition, avaient dénoncé une récompense faite au Hamas. Smotrich ne cache pas, lui, ses intentions d'annexer la Cisjordanie. Bon, s'ils annexent la Cisjordanie, effectivement, comment tu crées un État palestinien là-dessus, quoi ? Et Le Monde rappelle que la Knesset, qui est le Parlement israélien, monocaméral, il n'y a qu'une chambre en Israël, en juillet a adopté une motion réclamant la pleine souveraineté sur les territoires occupés de Cisjordanie. Le texte n'a pas de valeur réglementaire, mais il a été adopté par une écrasante majorité. Voilà. Alors, il n'est pas sûr que Netanyahou donne son feu vert à ce projet, voilà, mais en tout cas, c'est ce que souhaite l'extrême droite israélienne. Merci du reçu pour le raid, c'est adorable. Merci Leroy, merci Wondani, merci Dani. Je vous lis. Bon, ceux qui ne sont pas habitués à cette revue de presse doivent être surpris un petit peu de ce qui se passe dans le chat. Ici, on parle des sujets un peu compliqués tous les matins. Voilà. ce dont je suis fier d'ailleurs. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit un peu compliqué, et que parfois il est un peu compliqué de modérer et que les gens s'expriment, mais dans une forme de respect les uns les autres, je trouve bien qu'on arrive à évoquer ces sujets quand même. Les deux peuples ont développé au fil des morts une telle haine qu'une issue semble impossible, dit Ben Becker. Avec autant de colons en Cisjordanie, un retour en arrière paraît impossible pacifiquement. Alors c'est l'une. Moi, au fil des. De mon modeste point de vue de journaliste, ça fait 30 ans que je m'intéresse au sujet du Proche-Orient. Ma conviction, qui s'est forgée lentement, au bout de 30 ans, pour tenter de comprendre ce qui se passe là-bas, en allant sur place, en Israël et dans les territoires aussi, quand j'étais jeune journaliste, c'est que la seule solution, éminemment compliquée à mettre en place, pour qu'un jour la paix s'installe dans la région, c'est effectivement la création d'un État palestinien, qui est prévue depuis la nuit des temps par la communauté internationale d'ailleurs, mais qui n'a jamais été mise en œuvre. Pour plein de raisons, et notamment le soutien insuffisant de la communauté internationale à ce projet. Ceci étant dit, c'est la seule solution, et cette solution, elle est éminemment compliquée à mettre en place, pour les raisons que certains viennent d'évoquer dans le chat, la haine que se vouent les deux peuples, en tout cas une partie importante de ces deux peuples, même si dans l'histoire, il y a toujours eu des partisans de la paix des deux côtés, mais qui aujourd'hui ont perdu. Et quelqu'un évoquait le nombre de colons juifs en Cisjordanie aussi. Comment tu crées un État palestinien sur ce territoire? Ça veut dire que voilà, il faut chasser ces colons, qui évidemment ne vont pas se laisser faire. Donc voilà, cette solution est éminemment compliquée à mettre en œuvre, éminemment compliquée. Voilà. Quel État palestinien? Quelles frontières pour cet État palestinien? Quelles élections? Avec quel parti pour y participer? Je parle côté palestinien. Voilà, c'est autant de réponses qu'il faut de trouver à cette équation d'une complexité sans fin. Évidemment, pour certains, notamment ici dans ce chat, c'est pas si compliqué, c'est très très simple, c'est comme ça, et ça se règle au café en 2 secondes. Et quand on prend le sujet de façon un peu sérieuse, ça l'est évidemment beaucoup moins. Salut de Wild Rosa, merci pour le message. Merci Virginie Martin. Samuel, pourrais-tu expliquer pourquoi l'annexion empêcherait la création des deux États? Parce qu'en fait, pour créer un État palestinien, c'est aussi créer un pays palestinien, avec des frontières, avec un statut international reconnu. Et donc un État, c'est un pays. Il faut qu'il y ait un territoire. Et aujourd'hui, les Palestiniens, où vivent-ils? Ils vivent principalement dans la bande de Gaza, où il n'y a pas de colonie juive, mais où l'armée israélienne occupe les 2 tiers ou les 3 quarts du territoire. Voilà. Et en Cisjordanie, où il y a 700 000 colons juifs, quoi. Comment tu crées un État palestinien avec une bande de Gaza envahie à 75% et une Cisjordanie où il y a 700 000 colons qui vivent, quoi. Donc évidemment, tout ça, c'est autant de freins à la création de cet État, quoi. Itac dit, sur le papier, on a la solution. Dans la réalité, je n'y crois plus, surtout après cette année écoulée. C'est bien le problème. Je résume. Souvent, sur ce sujet, je rappelle une lecture qu'on a faite il y a quelques mois d'un spécialiste de la région, un chercheur spécialiste du Proche-Orient, qui disait, la seule solution, un jour, au retour de la paix dans la région, c'est la création d'un État palestinien. Enfin, la solution dite des deux États. Je ne crois pas qu'elle arrivera un jour, cette solution, parce qu'elle est éminemment compliquée à mettre en œuvre, mais c'est la seule solution. Voilà. Et au fil de mes lectures, de mes réflexions sur le sujet depuis une trentaine d'années, j'en suis arrivé à cette conclusion aussi. Ouais, allez, Dubu, on sera aux events, ouais. Dans quelques jours, on affichera les donation goals. C'est plus marrant quand tu joues à Valo. Tu m'étonnes, Hugo, on n'est pas tout à fait sur la même matière. Ouais. Ah, très bonne question de Théo. Alors ça, c'est une vraie inconnue, ça. Théo nous demande, est-ce qu'un retournement de situation est envisageable lors des prochaines élections israéliennes? En 2026, l'an prochain, il y a des élections générales. Donc c'est un régime parlementaire. Hein. Donc des élections pour élire les députés de la Knesset en Israël. Voilà. Quel camp va l'emporter? Le camp de la guerre? Le camp de la paix? Quel parti? Dans un régime parlementaire où il faut des alliances? Voilà. Avec un homme Netanyahou qui est passé maître dans l'art de rester au pouvoir, je crois qu'il est resté au fil de ses postes de Premier ministre 17 ans au pouvoir. Donc, quelque part, la solution, elle est aussi dans les mains des électeurs israéliens, quoi. Il a été élu à combien de voix la dernière fois? Ça marche pas comme ça en Israël, Kirin, c'est un régime parlementaire, c'est pas une présidentielle. Donc en fait, ils élisent des députés qui se présentent sous la bannière de parti. Et après, comme dans tout régime parlementaire, les partis se parlent pour former des coalitions. Bon, c'est ce qu'on fait en Allemagne, c'est ce qu'on fait en Belgique, dans les pays parlementaires, enfin, il y a plein d'autres exemples. Et ensuite, ces partis se mettent d'accord pour nommer un Premier ministre. C'est un régime très très différent du régime présidentialiste français, quoi. Donc c'est pas Netanyahou qui est élu. Bon, les amis, rendez-vous demain, puisqu'on parle du Proche-Orient ici et tous les jours, si le sujet vous intéresse, si vous voulez continuer à échanger ensemble sur ce sujet délicat. On en parle quasiment tous les matins. Je ne répondrai pas à toutes les questions et à toutes les questions qu'on peut se poser ensemble sur ce sujet. On essaie de le faire un petit peu tous les jours, quoi. Mais merci en tout cas à la majorité d'entre vous d'essayer de participer à cet échange, même si vous n'êtes pas d'accord entre vous sur cette question. Salut, chef vêtement. Merci pour ton message. Je voudrais vous parler aussi d'environnement ce matin. Alors, masterclass du monde. Moi, j'ai des jours que j'aime. Bon, tous les journaux que je lis le matin, je vous les remontre, je les aime beaucoup, c'est mon petit kiff. J'aime lire Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos et L'Équipe. Voilà, j'aime bien lire ces journaux, c'est mon petit plaisir du matin depuis très très longtemps. Et puis, certains matins, je lis par exemple Le Parisien, qui est un journal que j'aime beaucoup, et je trouve 4-5 articles passionnants dedans. Et puis, le lendemain, moins. Je suis moins inspiré, ou je trouve l'actualité moins bien couverte, ou bref, c'est très subjectif. Et là, c'est dans Le Monde vraiment que j'ai trouvé des articles vraiment intéressants sur l'actu, notamment sur ce sommet pour limiter la pollution au plastique, avec des conséquences sur l'environnement et sur la santé humaine. Un sommet très, très important et qui vient de se terminer. C'était en Suisse, c'était à Genève, et qui s'est terminé sans accord, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour l'environnement. Donc, c'est page 7 dans la dernière édition du Monde. Plastique, les pays pétroliers torpillent le traité international. Les 183 pays réunis à Genève ont échoué à s'accorder sur les mesures à prendre pour lutter contre cette pollution omniprésente. Ces derniers jours, on a lu plusieurs articles qui soulignaient la progression de la pollution par le plastique dans le monde, conséquences sur l'environnement, conséquences sur la santé humaine avec ce plastique que nous ingérons dans les aliments que nous consommons, voilà, parce que présent dans les cultures, dans les poissons que nous mangeons, etc. Et là, il n'y a pas eu d'accord. Chaos et consternation, ce qui devait être l'ultime session de négociation pour parvenir à un traité mondial juridiquement contraignant, il y avait un vrai espoir, pour lutter contre la pollution plastique et ses effets délétères sur l'environnement et la santé humaine, s'est finalement soldé par un échec cuisant. Aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé entre d'un côté, parce que là il y avait une grosse division entre les États, La centaine de pays dits de haute ambition, il y avait des pays qui voulaient un accord, dont ceux de l'Union européenne, qui étaient partisans d'un traité limitant la production de plastique, en s'attaquant à l'ensemble de son cycle de vie. Donc c'était des partisans de la réduction de la production de plastique, pas seulement des partisans du recyclage, hein, mais des pays qui disaient, pour réduire la pollution plastique, il faut réduire la pollution, le recyclage ne suffit pas. Et de l'autre, un petit groupe de pays, dit obstructeurs, dont les pays du Golfe, producteurs de pétrole, l'Iran et la Russie, producteurs de pétrole et de gaz, c'est que le plastique est fabriqué à partir de pétrole, qui, eux, voulaient limiter la portée de ce texte à la seule question de la gestion des déchets et du recyclage. Or, les scientifiques qui se penchent sur la question disent « Vous ne pouvez pas réduire la pollution plastique dans le monde en axant vos efforts uniquement sur le recyclage et la gestion des déchets. C'est largement insuffisant. Il faut réduire la production. » Et ça, les pays pétroliers, notamment, ne le voulaient pas. Et ils ont réussi à bloquer un accord. Le comité intergouvernemental de négociation avait pourtant prévu une session très longue de 10 jours pour ce nouveau round de discussion. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait un sommet là-dessus. Organisé au Palais des Nations Unies à Genève, après l'échec de celle qui avait déjà été... qui s'est déjà organisée c'était fin 2024 à Busan, en Corée du Sud. Si Destroki pouvait nous lâcher la grappe sur son syndrome du... Comment on appelle ça? Comment s'appelle ce syndrome déjà dans le jeu vidéo du personnage principal. Voilà. Voilà. Parfois, voilà, quelqu'un dans le chat, vous êtes... Voilà, vous êtes 4400 sur Twitch, vous êtes 400 sur TikTok, et parfois on ne lit qu'une personne, voilà, pendant 15 minutes sur un sujet. Pff, un peu d'humilité à un moment, quoi. Vous voulez pas plutôt aller convaincre vos proches, vos amis ou les gens dans la rue là, et nous là, parce que notre ami est toujours sur le Proche-Orient et nous on est sur le plastique. Tu veux pas faire une petite pause? Tu reviendras demain. De toute façon, t'es là à chaque fois. Je parle à une seule personne qui me cite. Oui, mais n'écris pas dans le chat, alors envoie-lui des messages. En plus, la personne dont tu parles, c'est un créateur de contenu, il a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch. Donc ne l'écris pas ici, en fait, tu nous fatigues. Ouais. C'est le syndrome du personnage principal. On est presque 5000 et on ne lit que toi. Ah non, pardon, il est sur la Russie. Ah non, il est même pas sur le Proche-Orient. Ah oui, il a deux sujets de retard. C'est épuisant, quoi. C'est dingue, ça. Bon, je reviens au plastique, bordel. Donc, on était où, d'ailleurs? Donc, Corée du Sud, il y avait déjà un sommet, puis il avait échoué déjà à l'époque. Aucun des deux textes n'a été retenu. Voilà. Texte jugé à la fois trop peu ambitieux par les pays qui voulaient avancer, et trop contraignant par les États pétroliers. Retour à la case départ, puisque le texte qui servira de base aux prochaines discussions était celui qui avait été établi en Corée du Sud. Bon, tout ça pour ça. 10 jours de discussion et il ne s'est rien passé, quoi. Rien n'est acté à ce stade sur la forme des négociations à venir, d'autant qu'aucune date ni lieu n'ont été avancés pour l'instant. Voilà. Mais on attend qu'un nouveau sommet puisse se tenir dans les prochains mois, c'est un peu l'idée. Mais pour éviter un nouvel échec, il faudra que les États changent les règles du jeu en matière de prise de décision, puisque vous l'avez compris, pour l'instant le processus actuel pour obtenir un accord sur la pollution plastique, pour l'instant cet État repose sur la règle du consensus. Il faut que les pays soient d'accord, se mettent d'accord entre eux, arrivent à se convaincre. Voilà. On n'arrive pas à le faire et ici, on est à notre toute petite échelle, vous estimez au niveau international, quoi. Et donc, il faudrait passer non pas à un processus de consensus, mais peut-être de vote majoritaire, quoi. Ou alors que les États volontaires pour avancer face à un traité qui ne les concerne qu'eux. Ouais. Même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. C'est le cas par exemple de la Chine, ça c'est intéressant. Premier pays producteur de plastique au monde, dont la position a évolué, voilà, expliquent les experts, à la fois au cours de la semaine et par rapport aux négociations précédentes. Jusqu'à déclarer vendredi, donc Pékin, que le traité devait aborder la question du plastique tout au long de son cycle de vie, de sa production à sa fin de vie, ce qui, jusqu'à présent, était une ligne rouge pour elle, donc la Chine semble avoir évolué sur le sujet, dit cet expert. Une preuve, selon lui, que la Chine se désolidarise largement du groupe de pays pétroliers mené par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, dont la position s'est à l'inverse durcie. Ah, j'avais pas vu, mais dans le bloc des pays qui bloquent, le bloc des pays qui bloquent, c'est intéressant, il y a aussi les États-Unis. Quelle surprise! Rappelons que le président Donald Trump n'est pas un grand militant de l'environnement. Je suis à la fin de l'article pour voir si ça ajoute des infos. Donc Le Monde, à la fin de l'article, fait un petit peu le point sur là où on en est aujourd'hui de cette pollution. Cette crise est massive. Le niveau de production de plastique aujourd'hui hors de contrôle pourrait atteindre le milliard de tonnes par an d'ici 2050. Les déchets plastiques s'accumulent et polluent l'ensemble des écosystèmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé la semaine dernière, il y a 15 jours, dans des articles qui vraiment ont fait le point. Vous pouvez retrouver ça sur Google assez facilement, sur la pollution plastique dans le monde. Déchets plastiques qui s'accumulent polluent l'ensemble des écosystèmes, sachant qu'à ce jour, moins de 10% sont recyclés à l'échelle planétaire. Or, on dispose maintenant de données scientifiques claires pour dire que le niveau de pollution plastique est directement lié à son niveau de production. Voilà. Il y a encore 2-3 ans, on n'osait pas s'engager sur cette question en tant que scientifique, mais maintenant on a suffisamment de preuves pour dire, dit certains scientifiques, qu'il y a un impact vraiment non négligeable que l'on peut comparer à celui de l'amiante sur la santé humaine, quoi. Outre les effets indéniables des plastiques sur la pression artérielle et les capacités respiratoires, une multitude de travaux montrent désormais que nombre d'additifs qui sont incorporés dans le plastique sont cancérigènes. La communauté scientifique a tiré la sonnette d'alarme à ce sujet dans une revue scientifique qui s'appelle The Lancet, que vous connaissez sûrement, à l'occasion de la reprise des négociations à Genève. On va vite là-dessus, mais la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait lu des dossiers très complets sur la pollution plastique, voilà, et sur les études scientifiques. Salut Nina, bonne journée à toi. Merci JB, merci Ricky Beaumont, merci Amorfati. Merci Thiazorus pour le soutien. Je vous lis, je vous lis. Pour ou contre l'eau en bouteille, Samuel, ben, manifestement, de dernière connaissance scientifique sur le sujet, c'est que l'eau en bouteille, c'est pas formidable, quoi. Voilà. Alors certains, c'est vrai que là, du coup, ça provoque la présence de micro-particules de plastique dans l'eau que tu consommes. Ce que les scientifiques recommandent, c'est de boire de l'eau du robinet. Certains me répondent que l'eau du robinet est de qualité extrêmement inégale selon les régions, ce qui est vrai. En France, on ne boit pas la même eau du robinet selon qu'on habite en région parisienne, en Bretagne, etc. Donc l'eau du robinet, idéalement filtrée, voilà, semblerait être non pas la meilleure solution, mais la moins mauvaise. Voilà, comme le dit Théo, ça dépend des régions. L'eau en bouteille est indispensable, des fois en fonction des régions, c'est ultra pollué dans beaucoup de régions. Après, je ne suis pas scientifique ni médecin, donc je ne répondrai pas de façon catégorique à vos questions, mais voilà ce qu'on a lu dans les papiers ces derniers jours, quoi. Salut Gwendal, bonne journée à toi. Élise du kayak nous rappelle que l'eau du robinet est quand même ultra contrôlée en France. Souvent, c'est une affaire de goût et pas de pollution. À bientôt, Gérard. Bonne semaine. Je vous lis. Suffit de remplacer l'eau par du cidre et le problème est réglé, nous dit Bulldozer qui est breton ou normand. Ou basque? Il y a du cidre au Pays basque? Je n'irai pas sur le débat entre cidre breton et normand. Je n'irai pas sur ce débat. On a déjà parlé du Proche-Orient ce matin, ça suffit, hein, les débats. Donc voilà pour le plastique, les amis. Quelle heure il est? Bon, ça va, on est dans les temps, je vous laisse à midi. Un petit peu de France, parce qu'on a parlé. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé du Proche-Orient, on a parlé de la pollution plastique. Parlons un petit peu d'actualité en France. Je n'ai pas trouvé 1000 trucs ce matin, mais des papiers pas inintéressants sur la présidentielle. Voilà. Je vous montre ça, c'est notamment dans Libération. Bon, j'ai un peu hésité à vous le lire, puis finalement, c'est intéressant. Voilà. Enfin, j'ai hésité parce que je trouve complexe, mais en fait, c'est pas le papier qui est complexe. C'est la situation politique en France qui est totalement illisible, en fait. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Alors, c'est, attends, c'est page 8. Ouais, c'est ça. Je vous montre. Disons qu'elle est moins binaire. Hein, longtemps, la vie. Enfin, en tout cas, la post. Enfin, la plupart d'entre vous, vous êtes nés après 1958 ici. Bon, l'histoire politique sous la Ve, c'est longtemps, ça a été très binaire, droite, gauche, voilà. Et ces dernières années, bah, vous le savez, c'est devenu plus compliqué ou plus riche. C'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous avez envie de le voir. Voilà. Et du coup, on peut estimer que cette vie politique française, elle est ou plus complexe, ou plus riche, ou plus illisible, ou plus ingérable, vous mettez l'adjectif que vous voulez. Mais du coup, on est un peu dans le flou pour 2027. Est-ce que quelqu'un dans le chat a le nom du président ou de la présidente 2027? Alors, j'aurais pas dû poser cette question, putain, ça va être parti pour les militants encore là. Oui, moi, oui, c'est. Non, 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 non. J'aurais pas dû poser cette question. Édouard Philippe? Alors Samuel Etienne, oui, oui, on parlera ça. Ah, Édouard Philippe. Villepin. Thierry Ardisson, ça va pas être possible, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Merci pour tous les Samuel Etienne, c'est gentil. Surtout sur le chat Twitch, hein, sur le chat TikTok, ils savent pas encore que tout ceci n'est qu'un prétexte pour préparer ma présidentielle, ma candidature. Je pense que le futur président sera un candidat surprise, dit Dunit. Ben voilà, exactement. René Coty, ça ne va pas être possible. Salut Léa. Celui ou celle qui unifiera la gauche, me dit Buchiot. Retour de François Hollande, me dit Petit Nano. Christiane Taubira pour EFIST. Hanouna. J'ai un alors t'es RN de Mona Lisa dans le chat. Je ne sais pas comment l'analyser, celui-ci. Parfois, je ne sais pas quoi faire de vos questions. Je m'en trouve avec votre question dans les mains. Je dis, mais qu'est-ce que je réponds à cette personne? Je ne sais pas. J'essaie d'avoir de la répartie, mais parfois, je sais vraiment. Alors, TRN? Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Ça bug, quoi. Ah, vive Bardella, j'attendais quand même pas que tout, vous étiez où? Quand même, c'est fou ça. Hein, je m'attendais en général, ça spam du Marine Le Pen et du Bardella. Et puis là, pas trop. Bon, c'est peut-être lié à. 11h22, c'est peut-être pas la bonne heure. Je vois. Donc, article dans Le Monde qui nous dit que les candidats à la présidentielle 2027 sont en recherche d'un programme. Voilà. Et d'idées qui pourraient les amener au pouvoir. Et ils ont, nous dit Libé, bien du mal. À la recherche de la recette Mirage. Bon, ça m'intéresse moi aussi d'ailleurs. Lisons. Malgré des ambitions affirmées, les futurs candidats à l'Élysée tâtonnent entre concepts flous, ça donne envie ça, slogans creux, ça donne très envie, et électorat désengagé, ça c'est vous. À 21 mois de l'élection, 21 mois, hein, ça va arriver vite, le socle stratégique de la campagne reste à construire. Bon, c'est le plus intéressant, parce que ce qui nous intéresse, nous, plus que les personnalités, ce sont les idées. Voilà. Et pour l'instant, manifestement, les candidats sembleraient conditionnels, puisque c'est le regard de Libération, peut-être que Libé se trompe, un peu en panne de programme. Mike dit qu'ils ont déjà puisé dans toutes les douilles existantes. Est-ce une entrée en campagne et en fanfare? Jusqu'à présent, on entend des musiques d'ascenseur, s'ennuyait Gérald Darmanin en avril dernier sur France Inter. Tâtant le terrain pour la présidentielle, le garde des Sceaux ambitionne modestement, lui, de dénicher le tube de l'année. Mais quel refrain donnera en 2027 envie aux électeurs de monter le son? Je crois qu'il y a une petite analogie avec le monde de la musique. Candidats déclarés ou non, ils sont tous en quête d'un air qui entraîne et qui reste en tête, comme la fracture sociale, par exemple. Jacques Chirac, en 1995, voulait s'attaquer à la fracture sociale, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou la promesse de Sarkozy, en 2007, de travailler plus pour gagner plus. On était resté sur des slogans comme ça qu'on a encore gardés en tête. Ou le hit entonné par Hollande en 2012, mon adversaire, c'est le monde de la finance. Analogie sur les joueurs de pipeau. Ouais, ça donne tout à fait aussi. Déjà lancé, Édouard Philippe a tenté au printemps un tonitruant « Je suis en colère ». Le patron d'Horizon veut que le pays se ressaisisse, cesse de se raconter des histoires. Donc ça, ce serait la thématique d'Édouard Philippe. « Je suis en colère ». Qu'on cesse de se raconter des histoires. Je pense sur le déficit budgétaire, sur la retraite, tout ça. Un proche du président de la République, donc Emmanuel Macron, qui lui ne peut pas se présenter hein, pour un troisième mandat, incite plutôt les candidats à plancher sur le concept d'un monde confisqué. Il dit « on vit un capitalisme de la finitude ». Qu'est-ce que c'est ça? Comment vit-on quand les promesses de la mondialisation et d'une augmentation continue du confort s'achèvent? Le président Macron avait amorcé cela avec le retour du tragique et la fin de l'abondance. La présidentielle, c'est d'abord une intuition stratégique. Les candidats devraient chercher cette problématique au lieu de se dire en colère ou d'aller sur M6 faire une ambition intime. Bon, pas très clair tout ça. À gauche, Boris Vallot et le communiste Fabien Roussel tricotent autour de notions plus positives, respectivement pour Boris Vallot, la démarchandisation et pour Fabien Roussel, le communiste, le bonheur. La France insoumise tente d'installer son concept de nouvelle France. C'est intéressant quand même tout ça. Le président de LR, Bruno Retailleau, entend lui murmurer à l'oreille des honnêtes gens. Les honnêtes gens. Pour trouver le bon ton, les candidats cherchent à mêler fond et incarnation visant le contraste avec le président sortant. Dans le camp présidentiel, le défi sera de se distinguer du chef de l'État tout en assumant les marqueurs du macronisme. Ce ne sont pas des programmes, mais des slogans. Je suis assez d'accord, Frolati. Appelant un changement profond, Gabriel Attal tentait une pirouette le 6 avril. Ce n'est pas renier notre bilan, c'est d'avoir le courage de se réinventer sans se renier. Bon. Alors, question de Libé. À 21 mois de la présidentielle, est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour identifier la question à trancher? C'est fou parce qu'en fait, on nous dit que aujourd'hui, c'est pas faire injure à Libération, mais c'est un petit peu la philosophie de cet article finalement. Et j'espère que Libération se trompe. Les électeurs seraient moins en attente d'un programme que d'un concept, d'un marqueur, d'un mot fort, d'une phrase. Marketing, quoi. J'espère que c'est pas le cas, quoi. À 21 mois de la présidentielle, n'est-ce pas un peu tôt pour identifier la question à trancher ? Un programme pour la présidentielle, c'est pas une question à trancher. Hein, c'est des mesures, c'est des réformes. Enfin, je pense. Hein. Le programme n'a jamais conquis personne. Mais c'est bien triste, c'est bien triste. Hein. C'est une forme d'immaturité démocratique que de rêver d'un homme ou d'une femme présidentielle qui va régler tous nos problèmes. Mais peut-être que Libération a raison, hein, mais je le regrette, quoi. Ça a toujours été marketing, les présidentielles. Tu n'as pas tort, UVC. Je suis d'accord avec Libé, dit PGT. Généralement, les Français votent pour un storytelling. C'est pas faux. Continuons. Victorieux en 2012, François Hollande n'avait perçu une cristallisation qu'à l'été précédent. Est-ce que c'est pas un peu tôt? On n'a pas encore senti la question à laquelle les Français veulent qu'on réponde en 2027, juge le ministre. Toujours pareil, c'est pas un programme, c'est une question. Il n'y a plus de narratif, on se laisse entraîner par les multiples peurs des Français, sécurité, régalien, climat, déclassement. Édouard Philippe, il annonce son programme pour après les municipales. Question de Libération, est-ce que comme en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine à l'époque, est-ce que c'est pas les tensions mondiales qui vont écraser les débats nationaux ? Hollande y pense que par exemple la question des alliances, de la place de la France dans le monde va être très importante en 2027. Dans son livre, Édouard Philippe invite à regarder le monde en face alors des menaces proférées par Trump, Poutine ou la Chine. Déclin de la France, incapacité des politiques à mettre en œuvre leur programme face à l'administration au corps intermédiaire. Tout ça, tout ça. Alors certains candidats veulent aussi s'afficher en phase avec la société et les mutations. Attal, par exemple, est frappé par le manque d'intérêt des politiques pour la solitude subie par des millions de Français. Il compte aussi s'emparer du malaise ressenti par les Français sur les pratiques managériales au travail. Plus des problématiques sociétales. Darmanin compte phosphorer sur la parentalité ou le bonheur à 20 ans. Je vais à la fin de l'article. Ah, puis il y a l'histoire des programmes, programme ou pas d'ailleurs. Et il y a aussi sur une petite question, c'est que bon, vous savez qu'aujourd'hui les gouvernements et les présidents ne peuvent plus compter sur des majorités absolues à l'Assemblée, leur donnant les moyens parlementaires de leur réforme, leur politique, voilà, ni même voir des majorités relatives. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui, quoi. Et alors, sans majorité à l'Assemblée, pose la question aux Libérations, à quoi riment les programmes ? Pourquoi proposer un programme aux Français ? Excusez-moi, je vois deux personnes qui monopolisent le chat, là. Comme les modos peuvent pas agir ce matin, c'est moi qui m'en occupe. Voilà. Et donc, vraie bonne question. Si depuis le début de la 5e, les législatives ont toujours été remportées par le président élu, lui permettant de faire voter les lois, le vent semble avoir tourné depuis 2024. Est-ce qu'un jour, on va retrouver une majorité à l'Assemblée qui permettra à un président de mettre en œuvre ses réformes ? Par exemple, avec un candidat qui déclarerait « Je ne peux rien vous promettre, je devrais tout négocier ». Imagine-t-on un candidat à la présidentielle saboter son meeting en admettant toute honnêteté qu'il a devant lui l'horizon bouché du blocage parlementaire et de l'impuissance ? Un président qui vous dirait « Écoutez, votez pour moi, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des réformes, mais ça dépendra du Parlement ». C'est intéressant. Et pourtant, Ce serait le langage de l'honnêteté, semble dire Libé, puisque la configuration actuelle d'une Assemblée nationale éclatée entre trois blocs irréconciliables pourrait ne pas être qu'un accident. Se répéter. Un candidat qui dirait mon programme surprise. Non, c'est pas tout à fait ça, Klaus Breit. C'est un candidat qui dirait voici mon programme, mais je ne sais pas si je serai en mesure politiquement de l'appliquer. Tout dépendra finalement des législatives. C'est aussi une incitation à ce que les Français votent pour des députés qui auraient validé le programme du président. Régulièrement consulté par les responsables politiques, Benjamin Morel, qui est un constitutionnaliste, professeur de droit public, tente de sensibiliser ses interlocuteurs aux lois de l'arithmétique électorale. Le camp vainqueur à la présidentielle n'obtient une majorité à l'Assemblée que si les électeurs des deux autres grands pôles s'abstiennent en masse lors des législatives. En 2017, les macronistes ont raflé plus de la moitié des sièges à l'Assemblée, avec seulement 15% du corps électoral, au premier tour des législatives, grâce à la démobilisation des électeurs de Marine Le Pen, de François Fillon ou de Jean-Luc Mélenchon. Or, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On est dans Libération, Fleur. La tripartition est désormais bien ancrée dans notre paysage politique et l'exacerbation du débat dans notre pays pourrait mettre fin à ce type d'abstention différentielle. Imaginons, cas pratique. Je me présente à la présidentielle. Je suis élu. Je dis aux Français, vous m'avez élu, très bien. Maintenant, il me faut une majorité à l'Assemblée pour pouvoir mettre en œuvre les réformes pour lesquelles vous m'avez élu. Votez donc pour les députés du parti. On va créer un parti qui va s'appeler, je ne sais pas, appelez-le. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Comment on pourrait appeler mon parti ? Sam Parti, la France Étienne, les Samuelos, les Bobos, le Parti Trop Tôt, joli. Nouvelle Vague, le Parti des Champions, joli. Merguez Parti, joli. Parti pour gagner, joli. Ok. Bon, imaginons la France Étienne. Énième jeu de mots sur mon nom de famille, je m'appelle Samuel Étienne, la France Étienne, c'est ma France, c'est ta France, c'est notre France, c'est merveilleux, marketing. Je dis aux Français, vous m'avez élu, maintenant il faut élire des députés, la France Étienne. Voilà. Les Français vont aux législatives et ne me donnent pas une majorité absolue à l'Assemblée. Voilà. Éventuellement des députés, mais pas assez pour avoir une majorité à l'Assemblée sur ma réforme. Avec un grand camp LFI, un grand camp RN, des députés également sociodémocrates autour du PS, des députés écologistes, des députés LR, et on se retrouve dans la situation peu ou prou que nous vivons aujourd'hui, avec l'absence de majorité, et donc une forme d'immobilisme. Voilà. Cas pratique. Et donc ce serait à moi, président, et au gouvernement, à chaque réforme, d'essayer de convaincre une majorité de députés à l'Assemblée. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement, avec Bayrou par exemple pour les économies budgétaires qu'il veut faire à la rentrée, là, dont on va parler à partir du mois de septembre. Et à chaque fois, il faudrait convaincre, voilà, au cas par cas, avec des partis et des députés qui à chaque fois, sur chaque projet, se diraient mais qu'est-ce que mes électeurs veulent que je vote, quelle est la consigne de vote de mon parti, etc. La tripartition désormais bien ancrée à l'exacerbation du débat politique pourrait mettre fin à ce type d'abstention différentielle. Voilà. Alors, oh, tiens, c'est drôle parce qu'Edouard Philippe s'est penché sur la question et il dit il y a une solution sur le référendum. C'est le référendum sur la réforme des retraites, par exemple. Alors, effectivement, c'est ce que dit Bobby Laplante. Pourquoi pas faire comme en Suisse ? Il y a une solution pour dépasser ça. C'est effectivement utiliser plus l'outil du référendum en France sur les sujets importants, comme par exemple la réforme des retraites, comme... sur l'austérité budgétaire, sur le budget consacré à l'armée dans notre pays. Voilà. Alors évidemment, c'est plus facile à organiser dans un pays comme la Suisse, en termes de taille, que dans un pays comme la France. C'est un coût. Il faudrait s'assurer que les Français ne se lassent pas de retourner aux urnes très régulièrement, hein, pas une fois tous les 5 ans, mais une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Hein. Et pourtant, ce serait intéressant. Voilà. Bon, un référendum comme ça, il ne faudrait pas en abuser, il faudrait en faire maximum un tous les ans, quoi, pour que les Françaises ne se lassent pas, quoi. Ah, où on fait un multi-référendum tous les 6 mois, dit Epanda ce temps-là, c'est-à-dire dans un référendum, on pose plusieurs questions. Ça peut être une solution, hein, à on va dire au blocage que connaît notre paysage poétique actuellement, quoi. Comme en Suisse, exactement. Ouais. À quand? Tiens, bonne question de Blo, j'ai pas la réponse. Merci monsieur, merci Ilac. Merci un jus de coco, pourquoi pas. De quand date le dernier référendum en France? Et Rendil dit, mais quelle idée de demander au peuple ce qu'ils veulent, ce qu'il veut. De quand date le dernier référendum en France? Grognon, Grincheux demande, t'es payé par qui? Par toi, si tu lâches un soutien, Grognon, n'hésite pas. 2005? 2005? C'était quoi déjà? Sur l'Europe? C'est ça? Sur la Constitution européenne? Et donc, ça pose la question du respect du résultat du référendum par la classe politique, bien sûr. Voilà. Évidemment, si on utilise l'outil du référendum, il faut que les politiques s'engagent à respecter les résultats du référendum, quoi. Bien sûr. C'est bien, on est en train de mettre au point notre façon de gouverner quand on sera élu. Donc, il y a la solution du référendum. Voilà. Et un proche d'Attal dit à propos d'Édouard Philippe qui met en avant cette solution éventuelle, par exemple sur les retraites, il dit c'est un aveu d'impuissance majeure. S'il perd son référendum, on est coincé sur les retraites pendant 5 ans, on fait quoi? Tout ça est une fausse bonne idée, dit-il. L'élection présidentielle n'est pas une élection de demande, mais une élection d'offre. Je mets les choses sur la table et qui même me suivent. Une autre analyse. Le président Macron, lui, que pense-t-il de tout ça, lui qui ne pourra plus se présenter, réclame depuis sa dissolution ratée le passage à une culture du compromis en France. Il est probable que l'on ait à nouveau à faire face à une assemblée éclatée dans les prochaines décennies, avertit un conseiller de Macron, peu croyant en la théorie de l'homme présidentiel. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, plaide également pour un changement de culture politique. Voilà, un changement de culture politique vers la culture du compromis, avec des parlements, avec des, pardon, des parlementaires, des partis qui seraient capables de se parler, de s'entendre sur tel ou tel sujet, ce qui n'est pas aujourd'hui la pratique, contrairement à certains de nos voisins qui sont des régimes parlementaires. Enfin, le régime parlementaire n'est pas la panacée, n'est pas la réponse parfaite à tous les sujets. Hein. Faire plus de conventions citoyennes, mais cutie, à condition que les travaux de cette convention soient respectés, bien sûr. Mais c'est intéressant parce qu'on est dans une séquence de recomposition de notre mode de fonctionnement politique en France. Merci de vos échanges en tout cas. Et attendez, un dernier article très vite sur la politique. Je regarde l'heure. Ça va, il reste un petit peu de temps. Dans Libération, sur les petits candidats. Non, c'est dans le Figaro. Ouais, c'est dans le Figaro. Voilà, sur les petits candidats. Puisqu'on parle de ma candidature, je pense qu'on peut ranger ma candidature dans ce camp-là. Pourquoi des candidats se présentent à la présidentielle alors qu'ils n'ont aucune chance d'être élus? Voilà, petit article dans le Figaro là-dessus. Pour exister, pour se faire entendre. Je spoil un petit peu la réponse. Merci, Rémi Rabat. Merci, Antigma. À l'approche de 2027, le retour des inépuisables candidats à la présidentielle. Dupont-Aignan, Lassalle, Asselineau, il pense déjà à Rempiler à condition de réunir les 500 signatures d'élus possibles. Rappelons que pour se présenter à la présidentielle, déjà, il faut trouver les 500 signatures d'élus, ce qui n'est pas évident. C'est quoi un petit candidat, celui qui ne passe pas dans les médias? Non, un petit candidat, c'est celui qui fait 0%, 0,1%, 1%, 2%, 3%. C'est pas un truc méprisant, c'est un truc de résultat, quoi. On peut considérer qu'Anne Hidalgo, dont on parlait tout à l'heure, a été une petite candidate à la présidentielle. On peut considérer que Valérie Pécresse, dont on parlait tout à l'heure, a été une petite candidate à la présidentielle. Petite par le résultat, quoi, par le score. Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, tous les 5 ans, à l'occasion de la présidentielle, d'anciens candidats profitent du rayonnement médiatique qu'offre la campagne pour refaire surface. Le point commun entre tout cela, c'est qu'ils ont été des petits candidats, mais plein de fois. Voilà. Bon, sauf erreur de ma part, Hidalgo s'est présenté une fois, s'est pris une tôle. Pécresse, une fois aussi. Eux, ils se présentent à chaque fois. C'est la question que pose le Figaro. La seule solution qui s'offre à eux, voilà. Donc, ils profitent du rayonnement médiatique qu'offre la campagne pour refaire surface. En fait, ils profitent de la caisse de résonance médiatique autour de la présidentielle pour exister et pour faire entendre leurs idées. En vrai, c'est pas si mal. Hein. En vrai, c'est pas si mal. La seule solution qui s'offre à eux reste de se présenter à la présidentielle, sinon ils disparaissent totalement du paysage, note le politologue Frédéric Savicky. À l'approche de 2027, donc ces éternels candidats affichent déjà leur... ambitions, tout est prêt, je travaille d'arrache-pied, le programme est quasiment bouclé, dit Nicolas Dupont-Aignan, candidat déjà en 2012, 2017, 2022. Voilà. Pourtant, encore récemment, l'homme au 4,70%, meilleur score 2017, hésitait à se représenter. C'est pas ridicule, 4,70%. C'est pas ridicule. Jean Lassalle, qui s'est présenté aussi. Voilà, lui, il espère qu'il aura les 500 signatures. Même s'il estime que c'est très difficile. Voilà, mais il n'a pas pris sa décision encore. Un autre professeur des questions politiques estime que c'est les deux hommes qu'on vient d'évoquer, là, Dupont-Aignan et Jean Lassalle, ne peuvent pas être considérés comme des petits candidats. Il faut différencier les candidats qui font moins de 1% et les autres. Bon, voilà, quelqu'un me demandait, mais c'est quoi un petit candidat? Bon, d'après ce politologue, c'est faire moins de 1%. François Asselineau, par exemple, il avait recueilli 0,92% des voix en 2017. Et Jean Lassalle, il était monté à 3,13%. François Asselineau, candidat pro-Frexit, qui n'était pas présent à la dernière présidentielle, puisqu'il n'avait pas obtenu les 500 signatures, par exemple. Voilà. Lui, il voudra se représenter dans 2 ans. Voilà. Mais c'est toujours le même argument. L'élection présidentielle offre une publicité sans commune mesure à ces petits candidats, voilà, qui leur donnent beaucoup de publicité pendant quelques mois, quoi. Un constat qui pousse certains partis à s'engager tous les 5 ans malgré les faibles probabilités de victoire. L'image du parti d'extrême gauche Lutte Ouvrière, dont Arlette Laguiller, recordman du nombre de participations à la présidentielle avec 6 tentatives, a longtemps été la candidate. Arlette Laguiller, elle ne se présentait pas pour gagner la présidentielle. Elle se présentait pour faire entendre, voilà, le fameux travailleur-travailleuse. Faire entendre ses idées. L'idée n'est pas de gagner, mais de rappeler leur message, rappelle Frédéric Savicky. À savoir pour Lutte Ouvrière, les idées historiques de l'extrême gauche, l'anticapitalisme, la défense des travailleurs, la valorisation de la classe ouvrière. Par exemple, Nathalie Arthaud, en juin dernier, candidate lors des 3 dernières élections sans jamais atteindre 1%, n'a pas écarté l'idée de se présenter une nouvelle fois. Voilà. Je vous lis. Première mesure de Samuel Président. Il faut qu'on construise notre programme. Si on obtient les 1 million d'euros sur la cagnotte pour les associations aux E-Events, puisque c'est le donation goal, on consacrera quasiment un stream par jour à la construction de notre programme. 1 million sur la cagnotte globale, ouais. C'est-à-dire le double de l'an dernier, puisque l'an dernier, grâce à vos générosités, on a fait 460 000. Bah, en même temps, c'est pas une décision anodine de se présenter à la présidentielle. Donc j'ai mis très haut exprès. Ça peut passer en vrai? Non, ça passera jamais. Il n'y aura jamais 1 million. C'est pour ça que je l'ai mise à 1 million. Pire événement pour moi, hein, qu'on arrive à 1 million. C'est-à-dire, je serais obligé d'aller de préparer un programme, obligé de chercher 500 signatures. Autant dire que ma vie pro et perso est bouleversée, quoi. Donc j'espère qu'on n'obtiendra pas 1 million. Si on fait 500 000, ce serait formidable. 1 million, c'est impossible. Faut jamais dire jamais. Non, non, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Et si on en approche, l'année prochaine, je mettrai, si j'ai la chance de refaire le The Event, je mettrai plus haut. Je mettrai 1,5 million ou 2 millions. Impossible n'est pas français. Ça n'arrivera pas. Ça ne te plairait pas pour l'expérience? Ah non, le bouleversement de la vie pro et perso, l'enfer. Hein? L'enfer médiatique, l'enfer politique. Quel enfer. Quel enfer. Bah, par contre, le seul truc intéressant, ce serait de créer un rendez-vous ici, qui pourrait être un rendez-vous quotidien, pour créer collectivement un programme. Voilà, en partant de l'actualité, et en se disant, tiens, sur ce sujet, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous voyez, alors ce serait finalement... une façon hyper intéressante de parler de l'actualité en allant au-delà juste de bah voilà ce qui se passe en disant bon ok alors nous par exemple nous qu'est-ce qu'on fait sur le Proche-Orient quelle initiative prend la France sur la guerre en Ukraine pour parler que des sujets qu'on a évoqués ce matin quelle initiative prend la France sur le déficit budgétaire quelle solution comment réduire les dépenses. Comment on augmente les recettes? Sur la question des retraites, comment on fait alors qu'on a de plus en plus de gens qui partent à la retraite et de moins en moins de cotisants, etc., etc. Voilà. Et on fait des espèces de streams comme ça, qui finalement sont des streams d'actualité. Et collectivement, et on tranche par les sondages, hein. Ce sera un instrument qui sera, comment dire, qui sera imparfait. Parce que ce ne sera que la majorité qui aura décidé finalement, mais c'est une forme démocratique. Ah bah voilà, ce jour-là, sur tel sujet, une majorité dans le chat a voté pour cette proposition. Donc c'est la nôtre. Voilà. C'est très imparfait, hein. Parce que sur une autre chaîne, évidemment, la communauté aurait voté différemment. Peut-être que le lendemain, la communauté aurait voté différemment. Bon. Et ce ne serait finalement que le reflet de ce que pense la majorité des viewers sur le chat. Mais, après tout, c'est une forme de réflexion intéressante sur l'actualité. Ça, ce serait marrant. Ce serait marrant. Voilà. Ça, pour le coup, ça m'intéresserait. C'est la suite qui m'intéresse moins. Vas-tu augmenter le salaire du président? On va le diminuer plutôt, je pense. On fera plutôt ça. Voilà. À condition que je puisse poursuivre mes streams. Il me reste du temps. Il me reste 10 minutes. Ok, j'accélère. Pour un dernier sujet que je trouve passionnant dans le monde sur l'industrie du robot en Chine qui est en train d'exploser. Je me dépêche. Voilà. On aura fait tous les articles comme ça. Et demain matin, je vous retrouve 9h, 9h30 pour une revue de presse également. En Chine, l'industrie du robot en ébullition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a quelques années. Tu n'as pas besoin du salaire du président, tu gagnes déjà des millions avec question.champion. Oh non, des milliards, cher Onex, des milliards. Des milliards. Merci beaucoup pour la pertinence de tes analyses, comme toujours. Donc, je vous montre l'article. Voilà. Il y a quelques années, on avait des articles tous les jours sur la robotique en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est énorme, c'est un secteur économique qui est en train de se révolutionner, demain les robots seront parmi nous, partout, dans notre quotidien, bon, et en fait, pas tant que ça, pas à la vitesse que certains ont espéré, rêvé, anticipé. Real Steel, excellent film, si je dis pas de bêtises, voilà. Sauf qu'en Chine, manifestement, ils mettent le paquet, c'est ce que dit cet article du Monde, merci Pompidou. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Merci Isma, merci Catherine, merci Gérax. Pékin était cette semaine la capitale d'un secteur qui pourrait peser jusqu'à 5000 milliards de dollars en 2050. J'accélère, j'ai 10 minutes. Une folie douce s'est emparée de la conférence mondiale et annuelle sur la robotique qui s'est tenue du vendredi 8 au mardi 12 août à Pékin, juste avant les Jeux mondiaux des robots qui se déroulent du vendredi 15 au dimanche 17 août à l'intérieur du Stade national de Pékin qui a vécu les JO en 2008. Ce sont des Jeux olympiques mais avec des robots. Voilà. Ici, un robot humanoïde qui tire des pénalties. Là-bas, deux autres qui disputent un combat de boxe. À côté démarre une battle de hip-hop mêlant robots et danseurs professionnels. Plus loin, une société présente son modèle réduit de l'AST, cette sorte de poulet mécanique issu de Star Wars. Baptisé Tron 1, il se remet d'aplomb après chaque coup de pied de l'animatrice. Ses concepteurs le destinent pour l'instant à l'exploration industrielle, l'éducation, la formation, la recherche universitaire. Au-delà du divertissement, ce grand salon annuel donc, de la robotique offre aux acteurs de la robotique chinoise une vitrine exceptionnelle pour attirer investisseurs publics et privés, clients potentiels et jeunes talents. C'est intéressant. En quelques années, et grâce au plan Made in China 2025, lancé en 2015 pour faire de la Chine une puissance manufacturière high-tech, son industrie robotique est devenue l'une des plus dynamiques au monde. En 2024, écoutez, les demandes de brevets robotiques en Chine représentaient les deux tiers du total mondial. La même année, donc l'an passé, le pays est devenu le premier producteur mondial de robots industriels, ce qu'on appelle les bras robots, mais également de très loin le premier acheteur de ces bras robots, avec 54% des robots installés dans le monde en 2024. Les Chinois sont à mort sur le robot, quoi. Un marché qui pèse actuellement 20 milliards de dollars, voilà, et qui pourrait atteindre les 50 milliards en 2032, et vous le voyez ici, certains disent 5000 milliards en 2050. Ça me paraît quand même très rapide. Mais la Chine veut encore plus. Elle accélère dans la robotique humanoïde et quadrupède en développant des modèles de plus en plus performants, fabriqués en grande série, s'affichant jusqu'à 10 fois moins cher que la concurrence japonaise ou américaine. Il est vrai que l'enjeu est gigantesque. Selon une étude publiée en mai, des équipes de recherche ont estimé que le marché des robots humanoïdes, précisément, pourrait atteindre 5000 milliards de dollars d'ici à 2050. Et que plus d'un milliard de ces machines à forme humaine pourraient alors être mis en service. On ne parle que des robots humanoïdes, des robots qui ont une apparence humaine, quoi. 90% de ces robots seraient utilisés pour des tâches simples et répétitives, voilà, à des fins industrielles et commerciales. Et c'est la Chine qui devrait en compter le plus grand nombre, hein, 300 millions contre 77 millions aux États-Unis. En face, les États-Unis veulent rester dans la course, grâce notamment à Nvidia, fournisseur clé pour la performance en IA des robots. Alors, l'IA, évidemment, c'est aussi un booster, hein, de la robotique, puisque d'après, je vous lis rapidement des infos que j'ai lues dans l'article, l'IA permet aussi aux robots d'apprendre par eux-mêmes et d'avoir besoin de moins de programmation. On n'est plus obligé de dire aux robots à chaque fois de leur expliquer exactement ce qu'ils doivent faire, et ils ont une capacité par l'IA d'apprentissage pour faire certains mouvements, par exemple, quoi. Je vous résume à l'extrême. Intéressant. Alors, est-ce que ce sera dans les services à la personne, par exemple? tu vois, notamment auprès des personnes âgées, qui aura le plus de besoins. Ah, la fin de l'article est un peu étonnante. Dans les méandres du salon, un stand lilliputien baptisé Robot pour tout le monde connaît son petit succès des hommes âgés. Oula, excusez-moi, j'avais pas vu. Dévore du regard un robot affalé sur une chaise de camping affublée de cuissardes et d'une perruque brune, d'une bouche en cœur et d'une poitrine opulente. Clair de lune, oula. Clair de lune obéit à la voix, ses mensurations sont. Oula. 86, 60, 90. Et oui, messieurs, nous pouvons les personnaliser, répète son concepteur. Ok, on n'est plus sur les personnes âgées là. On est sur autre chose. Voilà, bon, ben voilà. Donc, la question c'est, est-ce que la révolution robotique va vraiment se passer? Dans quelle proportion? Dans quel pays? À quel prix? Pour quelle mission? Pour quel service? Les personnes âgées peuvent apprécier également le Mongre. Si tu parles de ta situation, je ne sais pas, chacun voit midi à sa porte. Voilà. À suivre. Mais c'est intéressant parce que dès quelques années, il y avait tous les jours les articles de la robotique, ça s'est un peu calmé. Et là, le papier du Monde semble nous dire que ça repart fort. Les amis, je vous abandonne comme de vieilles chaussettes et que je m'en excuse. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce matin pour la revue de presse. Merci à vous. Je vous retrouve demain matin pour la revue de presse. Voilà, aux alentours de 9h. Je ne serai pas là ce soir en stream pour du gaming parce que je vais en Bretagne voir ma petite famille, enfin voir mon frère et ma soeur. On fait des petits trucs ensemble. Là, je vais aller à Gare Montparnasse. Bah, si vous êtes du côté de Gare Montparnasse, on se fait un selfie. Bah, j'y suis dans une demi-heure. Et puis, et encore merci. Je dis au revoir aux amis de TikTok parce qu'on va faire un raid sur Twitch qu'on ne peut pas faire sur TikTok. Amis TikTok, merci. Prenez soin de vous. Demain matin, 9h, 9h30, la revue de presse. C'est tous les matins, du lundi au vendredi, sauf 2 semaines par an quand j'enregistre Question pour un champion. Autant, bon, ce qui va arriver la semaine prochaine. Mais si vous ne me voyez pas la semaine prochaine à partir de mercredi, non, cette semaine à partir de mercredi, pardon. Et la semaine prochaine jusqu'à jeudi, c'est normal parce que je serai question pour un champion, mais ça n'arrivera que 2 semaines par an, et la prochaine ce sera en mars-avril. Donc retenez qu'on est là normalement toutes les semaines, du lundi au vendredi. Amis de TikTok, à demain matin, bonne journée à vous, prenez soin de vous et des autres, soyez heureux, et merci d'être là. Ciao ciao. Amis de Twitch, à nous. Nous, on va faire un raid. En plus, vous êtes super nombreux. Donc là, on va aller soutenir le travail d'un autre créateur, d'une autre créatrice de contenu. Merci Pompidou 2027. Bon, merci d'avoir été là ce matin. C'était un plaisir de discuter avec vous de ces sujets parfois complexes. Qui est en live? Qui est en live? Actualisons tout ça. Merci Théo. Attends. Ouais. Ouais, on me propose des trucs là. Mais pourquoi pas? Écoutez. Alors, on aimerait les petites chaînes ici, ce qu'on fait tous les petites chaînes, ça veut rien dire. Les chaînes, il n'y a pas beaucoup de viewers. Parce que c'est une façon de les mettre en valeur, donc c'est ce qu'on fait la plupart du temps, tous les jours. De temps en temps, je raid un streamer qui n'a pas besoin de soutien. Qu'on avait un gros streamer, mais parce que je trouve que le contenu est intéressant. Quelqu'un que je ne raid vraiment pas souvent, je sais pas si j'ai déjà fait, c'est Le Clear. Mais ce qui m'intéresse, c'est que là, en plus, il est sur un jeu qui m'intrigue beaucoup, qui est Battlefield 6. Je pense qu'on est sur la bêta. Voilà, et c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Et je pense que Le Clear est très très fort à ce jeu, donc ça va être intéressant de voir ça. Allez, c'est parti pour Le Clear. Hop. Lock. En vrai, si j'avais pas montré un prompt, je regarderais parce que ce jeu m'intrigue beaucoup. C'est parti. Les amis, on va voir nos clients. Merci d'avoir été là ce matin. À demain matin pour la revue de presse. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Hein. Et puis, on est lundi, passez un bon début de semaine. Merci encore. À demain, bande de beaux gosses. Ciao. Ça part dans 5 secondes. À la louche. Trois, deux, un. Ah, j'ai mon taxi qui arrive. Let's go.
Revive me, revive me.